Amis de la Résistance, bonsoir. Abemous Papam.
Voilà. Abemous Papam.
Et Abemous au téléphone, le marquis, parce que comme il appelle des îles, on ne va pas attendre plus longtemps pour lui donner la parole. Autrement, il serait obligé de rentrer à pied, vu qu'il aurait dépensé tellement d'argent en téléphone, car c'est lui qui paye son téléphone. Alors on va chausser les écouteurs, on va lui demander quel temps il fait. Bonjour marquis.
Alors, cher frère, je suis très très heureux de vous entendre et d'avoir entendu la fin de l'annonce de Victoria. C'est un peu un retour à la civilisation.
Ah bon? Pourquoi? Vous êtes où? Vous êtes chez les sauvages?
Là, enfin, ça y est, on peut revivre. Je suis à Las Palmas, dans le jardin botanique.
Oh, bah ça va, c'est quand même assez supportable.
Oui.
Il n'y a pas trop de singes dans le jardin botanique?
Non, mais on entend des cris. Il y a des perroquets, on a l'impression qu'ils disent Napoléon. Ça doit être une suggestion. Mais c'est un bonheur parce que je dois vous dire que d'avoir débarqué à Sainte-Hélène, c'est pas si simple. Mais enfin, on a réussi à le faire et c'était extrêmement intéressant. Mais depuis, c'est épouvantable.
Est-ce que vous confirmez la rumeur selon laquelle Napoléon, il serait mort?
Ça se dit.
Parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'on l'avait retrouvé assis sur une baleine en train de sucer des arêtes de poisson. Quelle est la vérité dans cette affaire?
On ne sait pas trop, mais en tout cas, on fait commerce de sa mort à Sainte-Hélène.
Bon.
Voilà. Et alors, depuis 8 à 9 jours, je ne sais plus, sur le bateau sans escale, je commençais à avoir envie de mettre les pieds par terre. Et nous avons plein de soucis que je vous raconterai. Il y a une mutinerie des passagers parce que le bateau va pas assez vite, parce que le commandant nous raconte des carabistouilles. Alors c'est là que d'un seul coup on voit les consolanels qui prennent le pouvoir. Ça c'est extraordinaire. On a réussi quand même, et j'ai eu une chance de s'arrêter à la queue pour que le professeur Tullard, qui a quand même culminé cette croisière, puisse descendre. Mais malheureusement, il faut rester jusqu'au bout. Et je souhaite très très vivement, mercredi prochain, être avec vous. J'espère être à Gênes, comme prévu par le programme, mais nous avons 15 heures de retard. Voilà.
Ah, écoutez. Alors, en tout cas, vous rentrez à Gênes. Faut de rentrer à Gênes.
Voilà, je rentre à Gênes. Après, je prends un car, si ça va bien, jusqu'à Nice. Et si tout va bien, je prends un avion. Et mercredi prochain, je devrais pouvoir vous retrouver. Alors, vous notez bien...
Est-ce que vous revenez napoléoniste, bonaparto-napoléoniste?
Non, pas du tout.
Pas vraiment.
Je suis content d'avoir été à Sainte-Hélène, parce que c'est quand même quelque chose à voir.
C'est un endroit où on a envie de mourir? Pas vraiment.
Non, je sais pas, c'est pas si désagréable que ça, tout compte fait. Hein. Je sais pas. Il fait peut-être le consul me dit qu'il y vit 8 mois par an et qu'il trouve ça très agréable, le consul de France.
Mais moi j'ai entendu dire que Napoléon sur place était tombé amoureux d'une Anglaise, qui laisse supposer qu'on doit quand même pas s'amuser tous les jours.
Bah, il avait que ça à faire ou s'occuper des abeilles.
Il avait mieux de s'occuper des Anglaises quand même, parce que les abeilles c'est plus difficile.
Voilà. Bon, alors tout ça pour vous dire que c'est tout ce fourbi, j'en reparlerai plus ou moins, était plus ou moins bien organisé, plutôt mal d'ailleurs. Et puis, les voyagistes qui nous ont promis le vol de l'aigle nous ont pris pour des pigeons quand même. Hein. C'est la conclusion pour l'instant. Voilà, tout ça est un peu Waterloo.
Est-ce que c'est aussi bien que les croisières habituelles, mais un peu plus cher?
C'était forcément plus cher puisqu'il y a l'estampille Napoléon. Et bon, alors en plus on est sur un bateau italien, on est dans un folklore incroyable.
Qui n'a pas voyagé sur des croisières grecques ne sait pas ce que c'est que le folklore de la croisière.
Ah très bien, alors voilà, bon ouais. J'ai pas encore tout vu. Non, mais c'est... maintenant je vous assure que j'ai qu'une envie, c'est de vous retrouver.
nous aussi, on sera contents de vous voir. Merci d'avoir pris la peine de nous appeler, non pas des antipodes, mais enfin de loin, quand même, le jardin botanique de Las Palmas. Vous savez qu'il y a un très beau jardin botanique à Paris aussi, vous auriez fait des économies.
Je suis tout à fait au courant, mais rassurez-vous, je vais peut-être pas repartir tout de suite quand même. En tout cas, mercredi prochain, j'espère.
Entendu, marqué, à bientôt.
Au revoir.
À bientôt.
Voilà, nous, on se paye un envoyé spécial à Las Palmas, et même, il a été allé plus loin, parce que, apparemment, il est toujours légitimiste, hein, il n'est pas très bon à partir, je trouve. Bien, alors ça, c'était...
Serge, un auditeur demande, qui est ce monsieur marquis?
Oh, c'est le marquis Chiriguez de Olmeta, authentique marquis espagnol, qui nous fait l'honneur, la grâce de collaborer au Libre Journal, et... à l'émission du mercredi soir, et qui est un personnage absolument délicieux et drôle, non, Goffman? Qu'est-ce que vous en pensez?
Authentique patriote français, pendant
en plus, oui, ce qui ne manque rien, ce qui ne gâche rien. Alors, vous venez d'entendre, vous avez entendu la voix de Victoria. Bonsoir, Victoria.
Bonsoir, Serge.
Ça va-t-il?
Ça va très bien. Bon,
c'est bien. Vous êtes contente?
Je suis très contente d'avoir un pape.
Ratzinger, ça vous plaît, ça?
Comment?
Non, mais je vous pose la question.
Benoît XVI.
Oui, mais... avant, il était Monseigneur Ratzinger.
Je trouve
et
qu'il est
vous,
beau.
Patrick, aussi, qu'est-ce que ça vous dit, Goffman, d'avoir un Ratzinger
Je suis tout à fait enchanté. Je pense que le panel, c'est comme ça qu'il faut dire, le panel d'experts que vous avez réuni ce soir dira mieux que moi. que le passé de Mgr Hatzinger nous garantit un avenir radieux.
L'avenir radieux n'existe pas, je crois. Enfin,
si, l'avenir n'appartient
pas. Ce serait pas une déformation venant d'un lointain passé.
J'en ai peur, oui.
Alors, je vais quand même vous lire le début d'une lettre, parce que celle-là, je reçois beaucoup de lettres anonymes. Oui. Que je ne lis pas, puisqu'elles ne sont pas signées. Le problème, c'est que je m'aperçois qu'elles ne sont pas signées à la fin. Donc, c'est difficile de ne pas lire les lettres anonymes. Je vais quand même vous lire le début de celle-là, parce que ça vaut quand même 1000. C'est un certain... j'arrive pas bien à lire si c'est Marcel. C'est peut-être Marcel, parce qu'il est admis anonyme, il a quand même mis son prénom. Monsieur de Mekech, votre émission du 6 avril dernier me fait bondir. Vos coups de gueule sont assez fréquentes. Hélas, vos sympathies religieuses ne sont plus à démontrer. De quel droit tes non-croyants, ni pratiquants, sont-ils injures comme vous le faites ? Intolérable de votre part, il y a des athées dans ce pays, j'en fais partie, je ne cache pas mes opinions. Le problème, c'est que la lettre est anonyme. Moi aussi, je peux afficher mes opinions dans une lettre anonyme, c'est pas très dangereux quand même. Hein. Puis en plus, se dire athée en 2005 en France, on peut pas dire qu'on court un gros risque. Hein. Je sais pas, enfin, je sais bien que le pape était l'ancien, le nouveau pape est l'ancien patron du Saint-Office, qui n'est autre que la Sainte Inquisition rectifiée. Mais on n'en est pas encore à brûler les athées. J'espère que ça viendra rapidement.
Mais pour l'instant, l'athéisme, je pense, en France, est une véritable religion. Et il y en a de plus en plus.
C'est tellement vrai. Alors, vous entendez la voix de M. l'abbé de Tannouarn, qui est un de mes invités ce soir. L'autre invité, c'est Éric Lebec, qui est l'auteur d'un livre indispensable, maintenant, qui figure dans toutes les bibliothèques d'honnêtes hommes, qui s'appelle « L'histoire de la diplomatie secrète du Vatican ».
Merci, c'est l'histoire secrète
de la diplomatie vaticane. L'histoire secrète de la diplomatie vaticane.
Cela dit, toute diplomatie sérieuse est en effet un peu secrète.
Alors, c'est paru chez qui, ça?
Ça, c'est chez Albin Michel en 97,
ouais. Et qui va publier, là, ces jours-ci...
Très prochainement.
Un ouvrage sur...
Benoît XVI, les défis d'un pape.
Voilà, donc on va parler naturellement de Monseigneur... de Benoît XVI. Mais je crois que effectivement il y a assez peu de risques à être athée aujourd'hui, et c'est vrai, comme disait l'abbé de Tannouarn, que c'est une espèce de religion. La meilleure preuve, c'est que les athées ont fini par obtenir une émission dans le cadre des émissions religieuses du dimanche matin, ce que je trouve délicieux, parce que, comme j'ai déjà dit, l'émission, ça donne à peu près ça. Alors, chers amis, ici, c'est la demi-heure de l'athéisme, donc Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Oui, je suis bien d'accord, Dieu n'existe pas. Et vous-même, Dieu n'existe pas, bien sûr, mais pouvez-vous le démontrer? C'est évident, Dieu n'existe pas. Au bout d'une demi-heure, on fatigue un peu, quand même. Mais ils sont contents, ils ont parlé, ils ont pu s'exprimer. Voilà.
Oui, il y a un succès de librairie récent. Je pense que les bobos aiment bien avoir ça sur leur table basse en recevant leurs invités. Ils n'ont pas beaucoup lu, de Michel Onfray, qui s'appelle Le traité d'athéologie, et qui a cette caractéristique de n'avoir aucune sorte de logis. C'est une logorée contre le christianisme, reprenant la bonne vieille légende noire. Mise au point par Voltaire, enfin rien de nouveau sous le soleil de France.
Oui, c'est ça. Mais j'ai vu l'autre jour.
Grand succès de librairie néanmoins, ouais, c'était incroyable.
Comme les gens ne lisent pas maintenant, enfin de moins en moins, c'est assez évident qu'il y a des livres qu'il faut avoir sur sa table de nuit, ou plus exactement sur la table de son salon, pour dire, tu vois, je l'ai.
Voilà, c'est
évident, je ne vais pas le lire, parce que c'est rempli. Donc je sais pas même pourquoi d'ailleurs les éditeurs s'enquiquinent à imprimer des mots dans les pages, parce qu'ils devraient faire des livres collés, vous savez, qu'on peut pas ouvrir.
Eh bien, je peux me permettre de raconter une petite histoire qui est l'histoire de la collection Sources chrétiennes, monsieur l'abbé, vous la connaissez,
oui,
n'est-ce pas? Et quand on fabrique un livre, ou quand on fabriquait un livre, c'est peut-être moins vrai ou maintenant, eh bien on faisait ce qu'on appelle des maquettes, c'est-à-dire des livres entièrement blancs mais comportant exactement le nombre de pages ou format nécessaire pour tenir le texte qui était prévu. Et une université du Brésil avait commandé la collection complète des Sources chrétiennes. Et voilà que 2 ou 3 ans plus tard, l'éditeur, qui est à côté de la place Saint-Sulpice, a cherché les maquettes. Il s'est rendu compte qu'il avait envoyé sa collection de maquettes à cette université qui ne s'en était pas.
Qui n'avait rien réclamé du tout.
Il n'avait donc pas ouvert un seul livre de toute la collection. Je crois que ça donne quand même une leçon de définitive d'humilité à quiconque écrit. Père Brugberger m'avait dit, excusez-moi mon cher Patrick Goffman, Père Brugberger m'avait dit, écrire est le travail le plus inutile et le plus ingrat qui soit.
Je vais enchaîner en quelques secondes avec une histoire parallèle de cette université de l'Ouest américain qui avait commandé un plâtre de la Vénus de Milo et qui l'a renvoyé avec une lettre furibonde en disant « Elle n'a même pas de bras, votre statue, est-ce que vous vous foutez de nous ?»
Bon, vous venez de l'inventer, celle-là.
Non, je vous jure que c'est authentique.
Bien, alors, revenons un peu aux choses sérieuses parce qu'il est déjà 6h15. Qui veut entamer parce que je crois que vous connaissez tous les deux. Enfin, Eric, vous l'avez rencontré plusieurs fois, Benoît XVI, avant qu'il soit Benoît XVI.
Oui, je l'ai rencontré. Oui, en effet, j'ai rencontré plusieurs fois le cardinal Ratzinger. C'était avant 1985, donc dans les débuts de son préfectorat à la doctrine de la foi, comme on appelle maintenant ce dicastère. Et je l'ai rencontré en tête-à-tête plusieurs fois. Je l'ai rencontré aussi dans le cadre du tournage d'un documentaire de télévision que j'ai produit pour une télévision américaine et pour RTL, qui s'est appelé Le Galiléen. Et puis je l'ai rencontré la dernière fois, c'était tout simplement à l'aéroport de Fiumicino. Et je ne sais pas, et alors il est en train d'attendre ses bagages, et moi de loin, assez discrètement, je le salue. Et à ce moment-là, il m'a fait signe d'approcher. Alors, je me suis permis à ce moment-là, bon, sans faire des démonstrations excessives, c'est dans un lieu public, de lui témoigner mon respect. Et on a bavardé très gentiment. Je crois même qu'on a pris un café. Il a pris un café Hag, ce qui, comme vous savez, Monsieur Labbé veut dire en Italie un café long. Décaféiné. Ouais.
Ah, oui, Hag, bien sûr.
Décaféiné. Et après, il avait l'air tellement démuni que j'ai proposé une place en voiture. Enfin, aujourd'hui, c'est très facile d'aller de Fiumicino à Rome, mais à l'époque, c'était assez compliqué. Alors là, il m'a répondu très gentiment, « Ah, ne vous inquiétez pas, il y a une voiture. » Et en effet, il y avait une vieille Mercedes très noire, très grande, très ennuyeuse, qui l'attendait, avec l'immatriculation de la
Città del Vaticano.
Stato della Città del Vaticano, oui. Ou bien si Cristo vedesse. si le Christ voyait ça. Mais je dois reconnaître que la simplicité bonhomme, paysanne, sympathique, la douceur extrême, le respect des personnes du cardinal Ratzinger, de feu le cardinal Ratzinger, parce que c'est désormais Benoît XVI, n'est-ce pas? Ce changement de nom indique comme dans la vie religieuse, enfin, une sorte de mort à quelqu'un et une naissance à quelqu'un d'autre.
Et c'est très beau parce que je crois que le cardinal Ratzinger avait toujours souhaité produire une œuvre intellectuelle de grande envergure. Il avait aussi conscience que ses responsabilités très élevées l'empêcheraient de mener cette œuvre de grande envergure à son terme. Et il s'est donné à Rome. C'est un Allemand qui a fait en quelque sorte don de sa personne à la romanité. Mmh. Et je dirais ce don a été aujourd'hui entériné par le Christ de façon définitive.
Il faut bien dire que d'être bavarois, c'est déjà être un peu romain. Le futur Pie XII, Pacelli, a été heureux comme jamais dans sa vie quand il était nonce à la cour de Bavière, puisque c'est comme ça qu'il a commencé, avant d'être ensuite transféré à Berlin. Et ce sont les quelques années de bonheur de Pacelli. Il y a en Bavière une joie de vivre, un bonheur, si vous voulez. Je pourrais dire que on est fier d'être catholique polonais et on est joyeux d'être catholique bavarois.
Est-ce que vous décrivez, c'est le catholicisme baroque. Je pense que le baroque, c'est la gloire de Rome, de la Rome chrétienne qui a relevé le flambeau de la Rome antique. Et c'est aussi la joie de la Bavière. Il me semble qu'en Bavière,
oui, les confessionnaux, il y a des trompettes aux confessionnaux pour acclamer les absolutions.
Et ben, des maisons de toutes couleurs.
Je peux poser une question peut-être naïve. Les médias ont fait état d'une déclaration, je ne sais plus laquelle, qu'aurait faite Mgr Ratzinger au cours, en aparté, au cours d'une fête de la bière. Est-ce que vous le voyez fréquenter la fête de la bière ou l'inaugurer du moins?
Parce que
vous parlez de catholicisme joyeux.
Enfin, une fête de la bière en Bavière, c'est toutes les semaines,
c'est tous les dimanches,
tous les dimanches après la messe. Enfin, je vois pas la difficulté.
L'Oktoberfest.
Non, ça je crois pas. Mais enfin, j'en sais rien. Puis de toute façon, ce sont des fêtes qui touchent à ce moment-là toute la ville sur plusieurs jours. Ouais. C'est certainement très fréquentable par un cardinal et comme. C'est quelqu'un de très rangé, c'est quelqu'un de très rangé, c'est pas le genre de Roncalli à Paris, qui était assez mondain, sympathique d'ailleurs, puis c'est un bienheureux, il faut que je fasse attention, parce que, bon, je pourrais être amené à lui présenter mes respects, je ne vais pas dire le plus tard possible,
qu'il y a vraiment chez lui, effectivement, l'idée qu'il est l'instrument, qu'il s'est remis entre les mains du Christ comme son instrument. Dans ses mémoires, dans sa petite autobiographie, ses mémoires, on lit à la fin « Seigneur, je suis ta bête de somme ». Et il répète ça plusieurs fois, c'est une allusion à un psaume. Ouais. « Je suis ta bête de somme, utilise-moi comme tu veux
enfin, ». Oui, alors j'ai rencontré récemment, par obligation, quelques intellectuels sur un plateau de télévision, et ils étaient très contents que le pape se soit défini comme un vigneron. Je crois qu'ils n'ont pas très bien compris ce que c'est que le travail de la vigne. Hein, qui comporte un élagage, une taille, pour que ça porte du fruit, et que peut-être qu'un sécateur entre les mains de Benoît XVI trouverait un peu d'usage, n'est-ce pas, avec quelques langues, puisqu'il avait demandé le silence. Il avait demandé le silence, c'est quand même pas prendre pour un nom à Leonardo Boff. Bon, quand on voit ce qu'écrivait Leonardo Boff, enfin bon, c'était quand même pas bien méchant.
Faut que vous soyez un peu explicite, Eric, parce que
Leonardo Boff.
Je crois que beaucoup d'auditeurs, dont je suis le premier d'ailleurs, n'ont pas un souvenir très précis de ce qu'est Leonardo Boff, sinon un théologien du dimanche
c'est
qui ne disait pas beaucoup.
C'est pas tout à fait un théologien, c'est un franciscain.
D'accord. Ça ne fait qu'aggraver son cas.
Et donc, il copiait ce que les jésuites et les missionnaires de Marignol avaient préparé. Pas tout à fait, oui. Et alors, les jésuites.
C'était un des champions de la théologie de la libération, voilà, on peut dire ça.
Au Brésil, et alors, il copiait, c'est les jésuites américains qui ont inventé, du nord des États-Unis, les riches qui ont inventé pour les pauvres comment il fallait faire, etc. Ça n'a marché nulle part, ça n'a servi à rien. Les régimes dictatoriaux sont tombés d'eux-mêmes, ou ils sont tombés sous la pression des États-Unis, et non pas sous la pression des foules qui auraient fait tomber. Enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et alors, Jean-Paul II, lorsqu'il est arrivé, avait évidemment cette expérience très forte des prêtres philo-communistes du mouvement Pax, et quand il a vu que des gens volontairement, sans contrainte policière, se mettaient à l'école du marxisme, si je peux me permettre, il a vu rouge, et très doucement. Alors on a beaucoup reproché à Jean-Paul II d'avoir sermonné Ernesto Cardenal, qui s'était mis à genoux devant lui. Le pape lui avait dit de ne pas exercer de fonction gouvernementale. Et il y avait refusé, et il était venu à l'arrivée du pape à Managua. Ensuite, la messe de Managua, ça a été filmé, je l'ai mis dans un de mes films, la messe de Managua a été sabotée par le gouvernement, par tout simplement en déréglant la sono, etc., de manière ignoble. Donc, bon, quand même, enfin, il y a eu une véritable agression. Or, il faut savoir que le pape Jean-Paul II n'était pas hostile par principe, parce que des prêtres prennent des responsabilités politiques pourvu que ce soit exceptionnel, temporaire, nécessaire. Et je connais quelqu'un, le père Leymang, qui comme ça a été premier ministre du Vanuatu. Chacun sait que ce sont les Nouvelles Hébrides. Et pendant 2 ans ou 1 an, j'ai rencontré le père Leymang, saint homme, qui était revenu à sa paroisse après avoir été premier ministre. Enfin, ce sont...
Et en Afrique, les évêques ont souvent pris la tête de conférence nationale destinée à la réconciliation.
Une des difficultés que va rencontrer Benoît XVI très prochainement, c'est la succession du cardinal Agré, archevêque d'Abidjan, qui n'a pas montré justement beaucoup de capacité à la réconciliation nationale ni même régionale.
Monsieur l'abbé, vous avez prévenu en quelque sorte l'élection de Ratzinger sur le trône de pierre, puisque avant qu'il soit élu, vous aviez commencé à travailler le personnage, à lire ses œuvres et sa biographie. Vous prévoyez la chose
ou... Alors il y a deux choses. Il y a l'abbé Barthes qu'un certain nombre d'auditeurs connaissent et qui est un véritable vaticaniste. Avait, je crois, été un des premiers, très rapidement après la mort de Jean-Paul II, à dire que si le cardinal Ratzinger n'était pas le pape, il était au moins le faiseur de pape. Je l'entends encore me dire, il faudrait qu'il le veuille. Dans son esprit, dès la mort de Jean-Paul II, il suffisait que le cardinal Ratzinger veuille être pape pour le devenir. Et donc j'ai eu la chance
Quand vous dites le veuille, accepte.
Qu'il accepte.
Je me permets de...
Oui,
je comprends votre
question. Si vous me permettez une petite interruption, très tôt le matin, hier, j'ai entendu un grand spécialiste, un grand vaticanologue, journaliste, très très brillant, qui a expliqué que il avait de meilleures sources la certitude que Martini et Ratzinger avaient fait savoir de façon catégorique qu'ils ne voulaient pas être pape. Bon, deux heures plus tard, les cloches sonnaient pour annoncer l'élection de Ratzinger, apportant un démenti sonore.
Le vaticanisme est certainement une science aussi juste que la kremlinologie autrefois, ou la pékinologie en ce qui concerne la Chine.
Mais là, c'est drôle parce qu'il y avait à peine une heure et demie entre l'affirmation catégorique de la chose et son démenti radical.
Je crois quand même que beaucoup de gens au Vatican avaient un sérieux pressentiment.
Enfin, alors, ce que j'ai compris de ce que mes amis romains ont
dit. Et le conclave a duré très peu de temps. 36 heures.
Ce qui était extraordinaire, n'est-ce pas, c'est qu'on a eu l'impression que quelques jours avant le conclave, en effet, le cardinal Ratzinger allait être élu, et que, en fait, la multiplication des déclarations que la liturgie lui imposait, dans lesquels il ne cachait nullement quelle était sa vue de l'Église et les solutions qu'il proposait, allait provoquer un rejet. Ouais. On a vu ça avec le cardinal Siri, qui avait donné une interview avant le conclave de 78 et qui, par conséquent, a été barré.
Oui, ça, c'est intéressant.
Et là, c'est tout le contraire.
Il a été extrêmement sobre aussi, hein, aussi bien dans le sermon pour les obsèques de Jean-Paul II. Moi, ça m'avait beaucoup frappé.
Mais très catégorique.
Je me suis dit, au fond, il fait très attention à ne pas proposer un projet d'Église ou solutions pour l'Église ou à s'interroger sur l'avenir de l'Église. Il est resté d'une manière quasi biographique sur le pape Jean-Paul.
Il a quand même fait un constat quand il fait son discours sur la situation de la barque de Pierre.
Ça c'est le Vendredi Saint.
Le sermon du conclave, l'ouverture du conclave.
C'est ça.
Il est le doyen du Sacré Collège des cardinaux.
À ce moment-là,
à ce titre. D'une manière rituelle, sans du tout se mettre en avant.
Mais dès le Vendredi Saint,
il fait le sermon d'ouverture, et là, évidemment, il est normal qu'il parle de l'avenir.
Mais dès le Vendredi Saint, il est conscient, comme tout le monde, que le pape, que Jean-Paul II ne va pas vivre indéfiniment. Enfin, il était agonisant, on le savait tous. Hein. Donc, son discours prenait une valeur...
Programmatique
presque, et qui se répète à l'ouverture du conclave, l'homélie des funérailles étant, elle, tout à fait anodine, je dirais, enfin, avec tout le respect
il n'a pas du tout voulu paraître devant ces millions de personnes. Alors, comme...
Ça, c'est la première chose. Enfin, ça, c'est intéressant. Donc, est-ce que c'est raisonnable de dire que quelqu'un est candidat? Parce qu'on a entendu ça sur toutes les radios, on a vu ça dans tous les journaux. Il y avait des candidats.
Je crois qu'il a été, en tout cas, très habile dans la manière dont il a manœuvré. Et je voudrais juste ajouter une chose. Jean-Paul II, le convoquant sur son lit de mort, me semble-t-il, a certainement dû lui dire, ne refusez pas le pontificat s'il vous est donné. Vous savez que là, il y a eu une fournée ultime de cardinaux conservateurs, donc en quelque sorte, c'est une manière très vaticane de bourrer les urnes. On savait que le pape ne serait pas un progressiste, C'est Jean-Paul II avait fait en sorte que ce ne soit pas possible électoralement. Et donc on pouvait penser.
Je vous trouve merveilleusement optimiste, Monsieur l'Abbé.
Mais, oui, mais
je crois que la noirceur de l'âme.
Les lecteurs de Pacte ont pu le lire avant. Hein, c'est facile de le dire après, mais les lecteurs de Pacte ont pu
le dire pape avait, dans le pape avait changé les règles du conclave d'une manière telle qu'on pouvait voir quelqu'un qui n'aurait pas eu la majorité des deux tiers, mais qui se serait maintenu jusqu'à 7 fois 7 scrutins, jusqu'à ce qu'il soit élu. On aurait pu avoir un conclave qui dure 6 semaines, et pour avoir un pape dont on aurait su qu'il n'aurait pas été élu par la majorité des 77 voix.
Éric, vous m'avez raconté une chose.
Excusez-moi, monsieur l'abbé, de me permettre
Bien sûr.
C'est pas journalistique, hein, mais...
vous m'avez raconté une histoire qui est quand même tout à fait significative. C'est un cardinal de vos amis, au moment où il a quitté la congrégation de religieuse où il était, quand la religieuse lui a dit éminence, faut-il prévoir quelque chose pour demain, je pense que c'est pas utile, et il lui a dit si, préparez le déjeuner car je serai revenu à l'ouverture du conclave, c'est-à-dire qu'il savait clairement, il disait clairement, le conclave durera pas plus d'une journée.
Ah mais il s'attendait même à revenir le mardi midi, il s'attendait à être de retour.
Donc,
le mardi
midi. Donc il savait, il y avait des cardinaux qui
ça
vous a été rapporté,
oui. Parce que en aucun cas je ne voudrais rompre quelques secrets que ce soit. Mais je pense que, tout en voulant informer et expliquer, mais je crois vraiment que en aucun cas il n'y a de candidat, même si quelqu'un est extrêmement convaincu qu'il a les bonnes solutions pour répondre aux questions de l'Église, il y a un véritable vertige devant la responsabilité. Même si un cardinal de Curie en particulier est habitué à fréquenter le pape très régulièrement, etc. Le gouvernement de l'Église est un gouvernement, je parle sous le contrôle de Monsieur l'abbé, un gouvernement extrêmement solitaire. Le pape ne préside pas un conseil en demandant l'avis à chacun, puis en se rangeant à l'opinion d'eux, et puis il n'y avait pas de réunion de cabinet, il y avait une réunion qui ressemblait un petit peu à ça, mais ça n'a pas duré, et où chacun donnait un peu son avis à son tour, exactement. À chaque fois, il y avait un cardinal qui parlait devant tous les autres. Bon, ça a été, n'a pas duré.
Donc, mais selon vous, il n'y a pas de candidat parce que personne ne peut briguer, il est difficile d'imaginer que psychologiquement un individu puisse, un cardinal puisse briguer le poste, si j'ose dire, le trône de Saint-Pierre. C'est pas président de la République parce qu'on se paye pas des voyages au bout de la terre pour aller.
Un truc tout simple, hein. Maintenant, si Benoît XVI, veut aller manger un bon abacchio, il peut pas aller chez Nino à côté de la Piazza d'Espagne. Alors que comme cardinal, il pouvait y aller. Ouais. Sa vie devient une prison dorée. En plus, il y a les problèmes de sécurité. Enfin, aujourd'hui, qui sont extrêmement grave.
Vous avez la même opinion?
Oui, c'est certain.
C'est sur le fait d'être le candidat pape... ou de ne pas être candidat.
Sur la solitude du pape, très certainement, ça me paraît évident. Et là, je repense à Bossuet parlant du roi qui est souverain dans sa conscience et qui n'a de compte à rendre qu'à Dieu. Bon, cette théorie du droit divin des rois, je crois qu'on peut l'appliquer de façon beaucoup plus authentique encore au pape, qui est vraiment et au sens propre un souverain de droit divin, et pas au sens simplement idéologique comme l'était le roi de France. Mais pour ce qui est de la candidature, la Via della Conciliazione est toujours aussi un petit peu la rue de la Combination, et donc que le Vatican est un petit monde dans lequel les candidats, même s'ils ne sont pas déclarés, sont connus.
Mais quel est bon, je vais parler d'une façon extrêmement triviale.
La question
quel est leur intérêt. Quel est l'intérêt?
Non, je suis pas d'accord avec.
Je vois bien. Ce qui me trouble extraordinairement, c'est que le pape, c'est vraiment le seul au moment qui n'a pas d'interlocuteur. C'est le seul être humain qui n'a aucun autre interlocuteur que Dieu. Il peut parler à quelqu'un, mais toujours, il est toujours différent. Il ne va jamais parler d'égal à égal avec qui que ce soit. Parce qu'il est détenteur des clés Saint-Pierre, toute façon.
Je voudrais raconter. Alors, c'est pas forcément lui qui se déclare candidat. Ça peut être aussi un parti qui le coopte plus ou moins. Mais je crois que
c'est tout à fait contre-productif si quelqu'un manifeste qu'il est. D'ailleurs, c'est interdit.
Il le manifestera pas.
Non, un jeu, par exemple, ne dit que savez-vous des pressions de Bush. Bon, c'est très probable d'ailleurs que les chefs d'État, les grands lobbies, les grandes communautés.
Non.
Essaye de faire pression.
Mais non, ils n'en ont pas les moyens, ils ne savent pas comment faire. Ils vont envoyer une note à leur ambassadeur pour essayer de savoir qui ça va être. Il y avait un particulier au moment du conclave de 78, un ambassadeur de France qui s'appelle Galichon. Je vous laisse imaginer quel était son surnom après la lecture de la comtesse de Ségur, n'est-ce pas? Et il s'est trompé merveilleusement, magnifiquement, sur le premier comme sur le deuxième conclave. Donc, les autrefois, je veux dire,
les grands rois d'Europe avaient un droit de veto sur l'élection du pape. Est-ce que c'est complètement
entièrement détruit? Il y avait une autre tradition il y a une autre tradition qui était une espèce de harangue qu'a fait en particulier Chateaubriand à la porte du conclave, où l'ambassadeur représentant, n'est-ce pas, faisait une harangue aux cardinaux pour leur indiquer le sens de leur devoir. Bon, et c'est surprenant de lire ce qu'a pu écrire Chateaubriand, parce que alors je peux vous dire que l'ambassade près le Saint-Siège, c'est grave pour l'intelligence, hein. c'est redoutable, c'est de stupidité, enfin. Ouais. Alors Chateaubriand, c'est pourtant un Breton que j'aime bien, etc. Bon, enfin, bref. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de moyen de pression. D'autre part, tout ce système extraordinairement, séculairement, traditionnellement étudié, n'est-ce pas? Les bulletins sont brûlés, etc. On peut rien savoir, etc. On va peut-être savoir un jour qu'il y a eu tant de voix, que ça s'est passé comme ci, comme ça, etc. Mais le Saint-Esprit, au cours des siècles, a utilisé les mauvaises passions d'un certain nombre de cardinaux. Enfin, il y a quand même des cardinaux qui étaient très, très loin d'être des exemples de la vie chrétienne. N'est-ce pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Le pape Pie IV, le soir de son élection, on a fait étrangler deux. Bon, et il est mort dans les bras d'une courtisane, même pas, il paraît que pas d'année d'après une révélation Saint-Catherine de Sienne. Bon, très bien. Bon, alors quand même, bon, je veux dire, il y a eu des cardinaux qui ont été nommés pour des motifs d'une futilité qu'on n'imagine même pas. Bon, à l'époque où c'était un pouvoir séculier, mondain, etc., on est très très loin de tout ça. Et très très très, on est à des années-lumière. Donc, je pense que même si Bush disait quoi que ce soit à un cardinal...
Il l'a fait, vous savez qu'il a rencontré ses cardinaux quelques jours avant le conclave.
Oui, mais il peut leur dire ce qu'il veut, mais ce que dit Eric était très intéressant, c'est-à-dire qu'il n'a aucun moyen de vérifier, admettant qu'ils disent à ces cardinaux, vous allez faire ça, et qu'ils les tiennent par n'importe quel moyen, oui, il n'a aucun moyen de savoir s'ils ont obéi ou pas.
Comment ils ont voté ou pas, etc. Il y a eu comme ça, au moment du seul conclave de Pie X, n'est-ce pas, le cardinal de Bonnechose, la Troisième République s'est permis de dire au cardinal de Bonnechose, en tout cas, le gouvernement ne veut pas que ce soit un religieux. Et alors, je ne comprends pas pourquoi Gagne de Bonnes Choses, bon, très bien, comme son nom l'indique, elle a entendu ça, on prend son chapeau en disant « Je préfère ne pas avoir écouté ce que vous venez de me dire, parce que c'est contraire à votre honneur, donc je suppose que vous n'avez rien dit, je vous remercie de votre excellent accueil. » Bon, on s'en va. On ne peut pas supporter des choses de genre. Même si Bush, je ne savais pas qu'il avait rencontré les cardinaux. Qu'est-ce qu'il peut leur dire? Penser à Dieu, jurer sur la Bible, c'est ce qu'on va faire, merci, très bien. Prier pour l'Amérique, oui, ça, probablement. Penser à la mort, oui, je sais pas. Enfin, en plus, si vous voulez, dans la mentalité de George Bush, qui est totalement différente de celle de son père, n'est-ce pas? Dans la mentalité de George Bush, il est vraiment un homme seul avec la Bible devant Dieu. Il n'y a pas du tout l'esprit d'église, de communauté de croyants, au sens, il est vraiment une communauté de ferveur, mais pas une ce qu'ils appellent aux États-Unis an organized church. Il n'a pas du tout le même esprit de ce point de vue que son père, et surtout que sa mère, Barbara, qui est une personne de tout à fait particulière, n'est-ce pas, et qui est aux antipodes de la morale telle que la pratique son fils, hein, du point de vue public, de l'avortement et ce genre de choses. C'est très étonnant, hein. Et l'une des sottises qui avait été commise par un chef d'État dont j'ai oublié le nom, c'est de féliciter le père Bush pour les qualités de chef d'État de son fils. Ça ne fait pas plaisir. Il est gentil, votre fiston. Hein. Il est, oui, il a de l'avenir. Oui.
Dès qu'il aura appris à lire, ça ira mieux.
Bon. Bon, bref. Donc, pour revenir à des choses sérieuses, je pense que vraiment, il y a un vertige total quand quelqu'un voit, enfin, on voit le récit admirable qui a été publié par Daniel Amiche du concile qui a élu Saint Pie X, du trouble qui prend un homme quand il voit que les suffrages se portent vers lui, que
c'est plus... publié dans
les éditions Sicre, voilà. Et plus la personne pour qui l'on vote manifeste du trouble et du refus, et plus on a envie de voter. Je crois que ce qui a déterminé les cardinaux, c'est peut-être ce que personnellement j'ai ressenti il y a un bon nombre d'années en rencontrant le cardinal Ratzinger, c'est que c'est un homme qui a de la bonté. Et j'ai dit hier à je ne sais quel intellectuel professionnel, il va être aimé. Et il m'a dit, oh oui, il est très habile. Je dis, non, c'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui va être aimé. Parce que il a de l'affection pour les gens. Il a de l'amour pour les gens. J'ai eu à lui parler de choses qui étaient vraiment tout à fait dramatiques, bon, et qui ne me concernaient pas du tout personnellement, mais qui concernaient d'autres personnes. Bon, tout à fait. Et un sens très 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 aigu de la manière de sauver les réputations des personnes. Alors que beaucoup d'autres, c'est l'institution qu'il faut sauver. Hein. Alors, les victimes, les coupables, tout ça, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est l'institution, c'est-à-dire le tiroir-caisse, l'image dans les médias, etc. Non, pas du tout, du tout, du tout, voyez-vous. Et ça, je pense que les cardinaux se sont dit, mais si c'est lui qui est le pape, il va bien traiter les gens. Les enfants, les femmes, les pères, les prêtres, les évêques, moi-même, il va avoir, il est apte à cette paternité universelle qui est une expression de Benoît XV, n'est-ce pas? Et quand on avait refusé la médiation de Benoît XV au moment de la guerre de 14-18, oui. Les médiations de Benoît XV.
La France notamment qui...
De manière honteuse. Ouais. Le père Sertillan, j'ai été en dessous de tout, il aurait été chassé de l'ordre de Saint-Dominique, on n'aurait jamais dû le reprendre. On aurait dû le laisser chanoine de Paris, c'était bien trop d'ailleurs. Et après qu'il ait parlé contre le pape Bosch, enfin il n'a pas employé ce mot-là, Léon Blois, c'est Léon Blois, très bien. Parlant de Judas XV.
Judas XV, oui.
Vous vous rendez compte, bon, t'es qu'on pense, comment est-ce que les gens peuvent faire, bon. Et je voudrais, si vous voulez, si vous me permettez, qu'aujourd'hui, il y a un pape qui arrive, que tous les catholiques aient ce minimum de réflexe qui est c'est pas de lui faire confiance. Zut, à la fin. Non, c'est d'obéir. C'est tout, c'est leur rôle. Si on n'est pas décidé à obéir à Benoît XVI, eh ben on n'est pas catholique, et puis c'est tout. Si on veut juger sur pièce, attendre ses premières déclarations, voir s'il va dire du bien d'un ami, voir s'il va prendre une décision heureuse pour ceci, pour cela, puis rapidement, puis sans attendre, et puis... mais à ce moment-là, c'est tout, il n'y a qu'à être protestant. C'est plus simple. Hein, on sait comment ça marche, ou pas.
Oui, quand vous dites d'ailleurs, quand vous dites attendre ces déclarations, c'est vrai qu'on a tendance à faire ça. Moi, ça a été mon premier réflexe quand on m'a dit qu'est-ce que tu penses de l'élection de Mgr Ratzinger. J'ai dit bon, j'ai pas d'opinion, je suis plutôt content parce que ça aurait facilement pu être pire, mais en même temps, bon, on va attendre, on va voir ce qu'il va faire, on va attendre ce qu'il va dire. Mais et c'est vrai qu'on a tendance à avoir cette attitude, ce qui veut dire que on prend l'habitude maintenant de juger des deux choses dans lesquelles on n'est absolument pas compétent. Parce que, je vois, tout à l'heure, un ami me téléphone en me disant, tu vois, ça n'aura pas duré longtemps, on aura quand même eu une demi-journée de bonheur, et puis là, j'apprends qu'il a décidé d'ouvrir le dialogue avec les autres religions. Alors, je dis, oui, c'est vrai, tiens. Puis après, en réfléchissant, je me suis dit, enfin, c'est quand même la moindre des choses.
C'est des rapports de voisinage.
Voilà, bon, tout simplement.
Alors, on peut ne pas aimer
ça. Je me permets de vous couper parce que je crois pas que ce soit des rapports de voisinage qu'envisage le cardinal Ratzinger lorsqu'il parle de dialogue avec les autres religions. Et il me semble que si on lit
vous parlez du défunt.
Non, le cardinal Ratzinger a écrit, et je pense quand même qu'un... Vous savez, le bon Dieu se sert d'un être humain dans sa continuité. Jean-Paul II devait beaucoup à ses racines polonaises, devait beaucoup à son professorat à Lublin, à ses deux thèses de philosophie, etc. D'ailleurs, pour ce qui est de Jean-Paul II, on peut dire que il lui a fallu tout son pontificat pour commencer à les oublier un peu, si vous me permettez cette pointe. Non, je crois que le cardinal Ratzinger a beaucoup écrit, que c'est un vieil homme, il a 78 ans, qu'à cet âge-là, contrairement à ce que disait Jacques Duquesne hier soir en apprenant ce qui pour lui était certainement une triste nouvelle, on ne change pas. Et que le bon Dieu a ménagé son instrument, il sait quel il est, cet instrument. Et je crois que votre vision un petit peu absolutiste d'un pape en soi n'est pas conforme à la manière de faire de Dieu, qui se sert des causes secondes. C'est d'ailleurs ce que le cardinal Ratzinger lui-même, devenu pape, a dit, le Seigneur sait travailler et agir en utilisant des instruments insuffisants. Il a donc bien conscience que son humanité n'est pas morte parce qu'il était devenu pape. Je crois que ce serait vraiment excessif de voir les choses dans cette perspective.
Bon, tout, et alors
pour revenir à l'œcuménisme
et à ce que vous disiez, d'obéissance.
Non, tout à fait. Mais ce que vous disiez sur les relations de voisinage, je ne crois pas du tout que le cardinal Ratzinger conçoive les rapports entre les diverses confessions chrétiennes simplement sous l'angle diplomatique, comme des relations de voisinage. Je crois au contraire, d'après ce qu'il a écrit, qu'il envisage la tradition et l'autorité comme les deux éléments clés d'un véritable dialogue. Je vous lis un très court texte tiré de Église, œcuménisme et politique qu'il a signé chez Fayard il y a déjà, je crois, une dizaine d'années. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici concernait le problème de l'autorité et de la tradition. J'ai essayé de montrer que c'est là, donc l'autorité et la tradition, et nulle part ailleurs que gît le problème fondamental dont la résolution constitue la clé du problème de l'unité des chrétiens. Vous voyez que c'est quand même pas de l'œcuménisme minimiste, hein, ou minimaliste. Un œcuménisme qui se dit le problème clé de l'unité des chrétiens, c'est l'autorité. L'autorité de l'Église, qui enseigne au nom du Christ. Et la tradition, c'est une perspective totalement traditionnelle et qui ne se trouve pas littéralement dans le Concile Vatican II. C'est une des carences, si vous voulez, du Concile Vatican II, que de ne pas avoir insisté sur cet élément de l'autorité. Le cardinal Ratzinger, dans sa réflexion théologique, intègre cette dimension et je dirais jusqu'à l'obsession. Donc il ne faut pas se précipiter, si vous voulez, pour juger. C'est vrai qu'il a fait ce long discours en latin ce matin où il a parlé paradoxalement de l'unité des chrétiens, mais qu'entend-on par le dialogue
entre les différentes confessions, c'est exactement la question que je pose.
Si ce dialogue consiste à aller vers la tradition la plus profonde et la plus vraie de l'Église, eh bien je crois que c'est un dialogue qui nécessairement sera fructueux.
Mais c'est exactement
tandis que si ce dialogue consiste à aller vers une espèce de minimalisme religieux, de même déisme qui n'ose pas dire son nom...
La phrase que vous venez de lire, elle peut très bien se comprendre de deux manières totalement opposées. C'est-à-dire, quand on dit le problème, c'est le problème de l'autorité et de la tradition, alors on peut dire, donc il faut supprimer le problème... Alors, ça veut dire qu'il faut supprimer l'autorité et la tradition.
Ah, c'est pas la perspective.
Ou alors il faut dire, ou alors on peut lire, eh bien, le problème, c'est que les autres acceptent l'autorité du souverain pontife, c'est-à-dire les protestants et les orthodoxes, et que toute l'Église catholique accepte la tradition.
Voilà.
Bon, alors, maintenant, chacun lira comme il veut. Vous avez une lecture positive, mais on peut aussi...
Une lecture positive qui s'autorise d'un mort, comme vous disiez à l'instant, c'est-à-dire qui s'autorise du cardinal Ratzinger dans ses écrits.
C'est-à-dire qu'on est, on fait très attention, vous savez ça mieux que moi, à distinguer les écrits privés du cardinal, de l'élu avant l'élection, et puis au contraire après l'élection.
Pour détendre un peu l'atmosphère, vous connaissez mon côté frivole, moi je ne peux pas rester aux anecdotes.
Je ne pense pas qu'elle soit...
Non, elle n'est pas tendue du tout, mon fils, qui nous écoute et que j'embrasse, pense que les deux m'écoutent, mais il y en a un qui m'écrit, et apparemment il y aurait déjà eu un Benoît XVI qui aurait été pape d'Avignon,
Non, il y a une...
Ou anti-pape.
Non, c'est pas un 16, c'est un 13, et c'est Pierre de Lune.
Non, il dit, il s'appelle Jean Langlade, et il a été élu pape d'Avignon.
C'est des successions loufoques, ça.
C'est des successions loufoques, c'est très connu.
C'est même pas un anti-pape.
Ah bon, même pas.
Moi, je vous avoue, j'ai vu ça sur Internet.
C'est un peu
peut-être votre fils.
Oui, non, mais c'est... Dictionnaire historique de la papauté par Pierre Levillain.
Bon, ben voilà, on pose une question.
Il y a des réponses là-dessus. Oui, non, mais c'est une réponse technique, mais effectivement, il y a plusieurs Benoît qui sont...
Alors,
ou discutables. Ou même pas discutable.
Je lis quelques messages. On a vu sur la place Saint-Pierre, le jour même des funérailles de Jean-Paul II, les Focolari brandir une banderole Santo Subito, ce qui ne veut pas dire saint subit, mais saint tout de suite, ou béatifié tout de suite. Et là, sur la place Saint-Pierre, hier soir, on a entendu un Italien dire que ce pape était déjà saint par sa bonté.
Oui,
en parlant de
Ratzinger.
De Monseigneur Ratzinger, enfin de Benoît XVI.
Donc c'est vrai que c'est un homme. Voilà. Je crois que c'est sa bonté qui a conquis, parce que du point de vue de sa compétence intellectuelle, de son expérience des hommes, je pense qu'il
y a. Mais il y a quand même une chose, c'est que pour succéder à Jean-Paul II, il fallait un pape qui ait une surface particulière. Je pense par exemple au cardinal Tetamanzi, qui ne parle que l'italien.
Voilà.
Au cardinal Scola, dont les dents rayent le plancher.
C'était le candidat du Livre Journal. C'est le baiser de la mort, je crois. Je crois que le Livre Journal a tué cette candidature en la recommandant. Non, je crains que cet article n'ait circulé.
On avait des opposants quand même assez forts, puisqu'on avait à peu près la totalité des cardinaux italiens qui ne voulaient pas de tête à vendre, dit paraît-il. C'est ce qui se dit aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils le savent. Mais enfin, En tout cas, voilà. Bon, on n'a pas gagné, mais ça sera pas.
Il m'est arrivé d'être reçu le même jour en audience privée par le Saint-Père Wojtyła, par le Saint-Père Jean-Paul II et par le cardinal Ratzinger. Il est certain que Jean-Paul II manifestait à la personne qui l'écoutait une attention, une bonté remarquable. Bon, c'était évidemment le pape, il est tout cérémonial, même en audience privée, très privée, dans ses appartements. Bon, malgré tout, bon. Je trouve qu'il y a, chez Joseph Ratzinger, une bonté personnelle, si vous voulez, qui était peut-être plus affective. Je ne sais, bizarre à dire, n'est-ce pas? C'est vraiment du caractère de l'intuition pure, n'est-ce pas? Et puis, j'adore la ville de Cracovie, pour de multiples raisons, et j'aime bien la Bavière, que je connais beaucoup moins bien. Mais bon, voilà.
Serge, j'ai une anecdote,
en fait,
je peux?
Allez-y, oui.
Ma fille qui vit à Fort-de-France vient de m'appeler pour me dire que là-bas, une immense auréole est apparue dans le ciel de la ville lors de l'annonce de l'élection du nouveau pape et est restée durant la retransmission de la bénédiction papale. Phénomène sans doute naturel, mais étonnant, vous en conviendrez. Et croyez-moi, ceci n'est pas une blague.
Non, mais le miracle, c'est pas qu'un phénomène se produise, parce que les miracles sont des phénomènes naturels. Le miracle, c'est qu'ils se produisent à un certain moment. Quand on dit que la séparation des eaux de la mer Rouge, c'est pas un miracle, c'est un phénomène naturel, oui, tout à fait d'accord, mais au moment où c'était nécessaire, ça s'est produit, c'est ça le miracle.
Oui, enfin, quand on lit quand même dans la Bible l'entrée du peuple hébreu dans la terre promise, le Jourdain s'est arrêté de couler, et tant que tout le monde passe avec armes et bagages, le Jourdain a formé une montagne. L'eau, c'est à l'eau continuant à couler.
Ça, c'est une histoire juste. Il dit raconte ça pour faire joli, parce que ça.
Bon, écoutez-vous.
C'est pour accréditer.
Je ne conseille pas de discuter ça avec Josué, parce qu'il est assez mauvais caractère.
Il est capable de nous faire le coup du soleil encore une fois.
Voilà, je vous permets pas.
Bon, d'accord. Mais c'est tout à fait vraisemblable que le soleil ce soir a été tourné, puisque ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est pas la Terre qui tourne autour du soleil, comme chacun sait, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Et j'en tiens pour le géocentrisme d'une façon absolument radicale.
Donc, de toute façon, c'est dit à partir de la Terre. Alors,
voilà, en plus. Alors, un auditeur demande dans le dernier Libre Journal, un prêtre, Vincenzo Romano, qui a écrit une supplique au futur pape. Qui est-ce et à quel moment a-t-il écrit cette supplique? Vincenzo Romano, voilà. Et il a écrit cette supplique quelques jours avant qu'elle soit publiée.
Il faut savoir que le cardinal Ratzinger s'est exprimé sur cette question de la messe dite de Saint-Pie V et de la manière la plus claire, n'est-ce pas, en manifestant que vous ne voyez aucune difficulté à ce que le rite puisse être utilisé.
Mais je crois que Jean-Paul II avait déjà dit la même chose et que les évêques français lui ont répondu par...
Il y a quand même une différence sur la liturgie entre l'ancien et le nouveau. C'est que pour Jean-Paul II, la liturgie n'était pas un problème, si vous voulez. On le voit d'ailleurs dans le cérémoniaire qu'il avait choisi, Monseigneur Marigny, qui est quand même un grand fantaisiste liturgique. C'est la manière de Jean-Paul II au Vatican.
C'est lui qui avait fait venir
des cardinaux. Et on avait évidemment dit que ça avait beaucoup plu au pape.
Oui. Il y en avait qu'un qui savait plus, c'était Arinze.
C'est le cardinal qui, lui, connaît la signification de ces danses, qui est le cardinal Arinze, comme vous savez, qui est préfet aujourd'hui chargé de la liturgie et qui est africain, n'est-ce pas? Alors, lui, il sait.
Et il est venu leur tirer les oreilles.
Et là, je crois que Monseigneur Marigny a quelques soucis à se faire pour son avenir proche. Parce que le cardinal Ratzinger avait lui aussi, excusez-moi, manifesté un assez vif mécontentement.
Et je crois que, au contraire, l'intérêt pour la liturgie du cardinal Ratzinger est ancien. C'est des souvenirs d'enfance même. Il a publié plusieurs livres sur la question, dont le dernier chez Herder. C'est un livre sur l'esprit de la liturgie qui est très important dans son esprit. Hein.
Et vous avez rappelé tout au début de cet entretien que cardinal Ratzinger, enfin Benoît XVI, c'est un Bavarois et c'est donc le baroque de l'Église, enfin le caractère baroque, la tradition baroque dans l'Église. Et je crois qu'il n'y a pas de rite plus...
Excusez-moi d'être un petit peu...
Plus solennel.
C'est très exact. Sur le baroque. C'est aussi, la Bavière, le pays de l'ordre de Saint-Benoît. N'est-ce pas? Et c'est évidemment très important, vu le nom choisi, n'est-ce pas? Et il y a, là-bas, les OSB, c'est-à-dire ordre de Saint-Benoît, c'est traduit en moquerie l'ordre des solides bavarois. Et alors ça se dit pas exactement comme ça, je parle pas allemand, je suis pas capable, mais enfin c'est ce qui se dit, quoi. Et effectivement, il y a des monastères bénédictins nombreux à travers la Bavière, les monastères sont nombreux, les moines à l'intérieur des monastères le sont un peu moins, mais il y a là une présence bénédictine, et le fait d'avoir choisi un nom de moine, d'un patron de l'Europe, quand on est de la Mittel-Europa, quand on est né à côté du rideau de fer, c'était pas encore le rideau de fer, mais qu'on a vécu son adolescence, jeune prêtre à côté du rideau de fer, à côté de la Tchécoslovaquie, d'où venaient des bruits horribles, enfin, de persécution, la Tchécoslovaquie, ça a été atroce. Bon. Donc, je crois que c'est très important. La vie bénédictine, pour parler de liturgie avec vous, monsieur l'abbé, la vie bénédictine est probablement quelque chose que connaît bien le nouveau pape.
Et effectivement, son intérêt pour la liturgie semble exprimé dans le nom qu'il a choisi.
Absolument.
Et puis,
il parle couramment le latin. Hein. Moi, je dois reconnaître qu'un jour, j'ai eu un rendez-vous pour des questions tout à fait temporelles avec le Monseigneur Graber, l'évêque de Ratisbonne, et il m'a fait loger dans une maison où je ne parle pas du tout allemand, et on m'a répondu « Ego quero sororem ut parat cubiculum tum, mentaculum tum, ora octava ». Et j'ai répondu « Ben...
voilà, commandant
voilà qui est sûrement bien intentionné, c'est-à-dire on va préparer votre chambre et votre petit déjeuner qui est servi à 8h. Bon, et j'étais bien incapable d'expliquer ce que je voulais comme petit déjeuner.
Oui, ita.
Ça se dit utique, le faudouille en latin. Utique, en tout cas en latin de cuisine.
Moi je ne parle que le latin de Cicéron.
Serge, une auditrice demande quel rôle a joué Mgr Ratzinger dans l'excommunication de Mgr Lefebvre.
Vous avez des lumières là-dessus, monsieur.
Dans l'excommunication de Mgr Lefebvre, je ne crois pas qu'il ait joué un rôle direct, ce qui est très intéressant, c'est la conférence qu'il a donnée à Santiago du Chili en 1988 contre le relativisme. Et ça, je crois que c'est sa réaction à l'excommunication de Mgr Lefebvre, qui est de dire, au fond, la question que pose Mgr Lefebvre sur la liberté religieuse et sur la liberté de conscience est une vraie question. C'est la question du relativisme universel. Et cette question... Attendez. Je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord a priori.
Au contraire, mais, je suis tout à fait d'accord. Il vient de reprendre cette expression en parlant de la dictature du relativisme.
Justement.
Voilà,
justement.
Je vous ai coupé vos effets. Je suis désolé.
c'est une vraie question et c'est le cardinal Ratzinger qui l'a introduite, je dirais, dans le pontificat de Jean-Paul II. Jean-Paul II, il me semble qu'il y a une complicité intellectuelle très profonde entre les deux hommes, si vous voulez. Et je ne suis pas devin, mais je crois que deux hommes de la qualité intellectuelle de ces deux-là n'ont pu que fraterniser profondément. Et il me semble que donc l'excommunication de Mgr Lefebvre a conduit le cardinal Ratzinger à cette conférence très violente contre le relativisme, qui à l'époque avait fait vraiment un petit scandale. Et ce thème est apparu alors, et à cette occasion, dans le pontificat de Jean-Paul II, et finalement après la chute du mur, et après que l'hégémonie libérale se soit affirmée de façon décisive, Jean-Paul II a commencé à rejoindre les théories antirelativistes et contre la liberté de conscience, si vous voulez, au sens que Grégoire VII, oui, donné à la liberté de conscience, du cardinal Ratzinger. Il me semble qu'il y a là une complicité intellectuelle qui n'est pas soulignée et qui apparaît, me semble-t-il, historiquement, événementiellement, à l'occasion de cette excommunication de Mgr Lefebvre. Comme si le cardinal Ratzinger avait voulu dire, dans ce que dit Mgr Lefebvre à l'Église, il y a ce point qui reste très important et dont nous nous saisissons, qui est non au relativisme. La vérité, pour un chrétien, prime forcément sur la liberté. C'est la vérité qui rend libre et pas la liberté qui rend vraie.
Eric ?
Oui, il y a un discours de Jean-Paul II comment ça s'appelle ? Je ne connais que ça. Un village de lépreux en Côte d'Ivoire. Et dans ce voyage, Jean-Paul II, s'adressant à beaucoup de gens qui sont là et qui ne sont pas chrétiens, leur dit « C'est le devoir de tout homme de chercher la vérité et ainsi, dans cette recherche, nous l'espérons de connaître Dieu ».
Voilà.
Bon, parce que vous voyez très bien c'est une citation de l'Écriture, c'est dans Saint Paul, je crois. Mais et donc c'est cela, la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de chercher et espérons-nous de trouver, parce qu'enfin chercher sans.
Là, on est dans une discussion théologique très aiguë. Oui, et je voudrais pas parce
Dieu,
que le thème
est-il un objet de connaissance.
Le thème de la recherche de la vérité, vous savez, est un grand thème maçonnique.
Qui est
finalement éminemment aussi celui de la liberté de conscience. C'est-à-dire la conscience humaine est libre de sa vérité. Si on comprend comme ça le thème de la recherche de la vérité, il est évident qu'on ne peut pas être fidèle à la tradition chrétienne. Je crois qu'il faut dire les choses clairement.
Cette
conscience, cette prise de conscience que le cardinal Ratzinger a développée et que Jean-Paul II, sur laquelle Jean-Paul II insiste jusque dans son testament spirituel « Mémoire et identité ». Vous savez, ce testament spirituel étonnant, écrit en 1993, et qui contient des choses tellement fortes que le pape l'a laissé sous le boisseau en disant ne publiez ça qu'au moment de ma mort. Dans ce testament, il met quand même sur le même plan le nazisme, le communisme et le libéralisme. Je connais aucune autorité morale ou intellectuelle au monde qui ait eu ce courage. Et bon, Jean-Paul II l'a eu au moment de sa mort, parce qu'il est évident que c'était quelque chose de tellement fort que, comme pape régnant, il pouvait sans doute pas se le permettre.
Ça pouvait pas être entendu.
Hein. Non. Alors, je voudrais vous dire quand même que tout n'est pas gagné, parce que je vais vous lire des messages qui viennent tous de la même personne. Vous savez, alors on peut se demander comment on peut savoir que ça vient de la même personne. Tout simplement parce que nos téléphonistes bénévoles que je salue et je remercie encore une fois, à force d'être là depuis des années, elles finissent par identifier parfaitement les voix. Et je vais même vous faire une confidence. Certains auditeurs qui téléphonent jusqu'à 10 fois dans la même soirée se sont acquis des petits surnoms qui sont liés à la façon dont ils posent leurs questions. C'est toujours très gentil, d'ailleurs. Rassurez-vous, il n'y a absolument rien d'insultant. Par exemple, le monsieur qui a posé ces questions, on l'appelle la bonté parce que il commence toutes ces questions par « Auriez-vous la bonté de faire savoir à nos... »
Alors, le pauvre message.
Voilà, ou de prendre mon message. Alors, M. Lavonté nous dit la chose suivante. D'abord, premier message. Je lis ça parce que... vous allez voir pourquoi je le lis, d'ailleurs. Ratzinger Pape, comme disait Maurras, c'est la revanche de Luther. Toutefois, on a échappé au pire. On aurait pu avoir un pape gnostique. Je ne sais pas si la bonté s'est couvert, mais ouais, c'est couvert, je veux dire, c'est couvert de honte. Joseph Ratzinger, ça c'est le deuxième message, a toujours été un suppôt de la nouvelle religion inventée à Vatican II. Il est donc probable qu'il continuera de même le travail de destruction de l'Église que ses trois prédécesseurs hérétiques néo-modernistes ont accompli.
Oui, bon.
Le rôle d'un pape n'est pas d'être affectueux, ça c'était la réponse à Éric Lebec. Le rôle d'un pape n'est pas d'être affectueux avec les gens, mais de transmettre intact le dépôt sacré de la foi catholique. Et sous ce rapport, on ne peut qu'être méfiant à l'égard de nos modernistes Ratzinger. Voilà. Donc quand je dis que ça va pas être de gâteau pour lui, je crois que...
Non mais ce qui est vrai dans ce que dit l'auditeur, c'est que le cardinal Ratzinger est un homme qui a fait un grand chemin. Le cardinal Ratzinger, au moment du concile, est un très jeune expert théologien, brillant, tout juste derrière Karl Rahner, et en quelque sorte, il est à cette époque dans son ombre. C'est 1968, je crois, c'est vraiment 1968 qui le fait réagir. Mais peut-être vous aurez des précisions. Mais en 1972, il crée la revue Communio contre... la revue Concilium, qui était la revue de tous les élantis du Concile, et ça représente une première distanciation. Et puis il y en a eu d'autres, et son intérêt assez récent, son intérêt intellectuel assez récent pour la liturgie est à mon avis l'ultime distanciation. Mais je citais tout à l'heure la conférence de Santiago du Chili, je crois qu'elle marque dans son cheminement intellectuel une étape anti-libérale très importante. Et il me semble qu'un homme a le droit, au cours de son existence, de changer. Qu'en tout cas, quelqu'un qui est dans l'erreur a le droit de se diriger vers la vérité.
Il ne faut pas exagérer non plus quel pouvait être le rôle d'un expert de 35 ans au milieu d'une assemblée comme celle du Concile.
Il était très important. Il suffit de lire le journal du Concile du Père Congar et de se rendre dans l'index et vous
absolument.
Verrez que...
Et alors, il était le secrétaire du cardinal Frings. Et vous vous souvenez que le cardinal Frings, c'est celui qui, avec le cardinal Liénard, a obtenu, d'une part, et d'abord, qu'on renvoie toute la liste des orateurs et des spécialistes qui avaient été préparés par la Curie romaine, et que, deuxièmement, on renvoie tous les documents préparatoires qui avaient été imprimés. Et le concile s'est retrouvé non seulement devant une page blanche, mais devant un désert. Et ça, c'est le cardinal Liénard, principalement, qui en porte la responsabilité, mais avec le cardinal Frings. Et à ce moment-là, il y a eu, au concile lui-même, une période de trouble complet, dont le concile n'est sorti qu'avec Paul VI. Puisque lorsque Jean XXIII meurt, il y a une seule décision qui a été prise, c'est d'annoncer le nom, d'ajouter le nom de Saint-Joseph dans la messe, n'est-ce pas? Une seule décision, qui n'est pas mauvaise d'ailleurs. Bon. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Bon. Et rien.
C'était prémonitoire d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas pris le prénom de Jean en hommage à ce choix de Joseph? Bon. Et ensuite, alors, Paul VI, avec son talent d'organisateur, a remis l'assemblée du concile sur un mode de fonctionnement. Ce qu'on va appeler un mode de fonctionnement. Donc, je pense que l'expérience d'un certain désordre et d'un certain relativisme est venue très vite chez le jeune Ratzinger auprès du cardinal Frings quand il a vu ce qui se passait
à ce moment-là. Il contribue à l'assemblée de Fulda en 1964, etc. Il est tout de même l'un des espoirs de l'aile marchande de l'Église. Je crois quand même que c'est 1968 qui l'inquiète vraiment beaucoup. Parce que là, il sent l'homme vaciller. Tout l'homme vaciller.
Oui, et puis il est
libertarisme.
Il est Herr Doktor Professor et les étudiants n'étudient plus. Alors, ça renverse l'univers, quoi.
Quelques messages encore pris au hasard. Enfin, pas tellement au hasard, parce que je dois dire, je vous ai lu avant. Le monastère de Vigrasbad, où sont formés les séminaristes de la fraternité Saint-Pierre, se trouve à côté de la ville natale du nouveau pape. Et alors, vous allez voir, on a parlé tout à l'heure de Fort-de-France, et bien là, c'est Vigrasbad. Avant que le nouveau pape n'apparaisse, il y avait beaucoup de vent, et dès qu'il est apparu, le vent est tombé et le soleil s'est mis à briller. Tant qu'on n'aura pas vu pousser d'oliviers sur le Mont-Blanc, on ne pourra pas être rassuré, parce que c'est quand même sa devise, c'est quand même des Gloria Olivier. L'abbé de Tannoir, alors ils sont partout, l'abbé de Tannoir exagère pour savoir la vérité sur les papes, écoutez Radio J. Ils allaient se faire faire de la publicité sur Radio Courtoisie, ils se l'enflaient quand même. À mon avis, le nom de Benoît vient de Saint-Benoît, Joseph Labresse. On dit Labresse ?
Labre.
Le nouveau pape est né le jour de la Saint Benoît Joseph Labre. Voilà. Intéressant aussi.
Benoît-Joseph Labre, qui est pour les auditeurs, est un clochard sublime. Enfin, il s'est sanctifié comme clochard. Mmh.
Et il a fait la fortune des Simon Lafarge. Si, c'est une histoire absolument vraie. Il a été reçu par une famille qui lui a donné une soupe, un verre de vin, une botte de paille. Et en partant, il a montré le bras, le doigt. Il a dit, votre fortune est ici. Il y avait un gisement de gypse. Ça a été le début des Simon Lafarge.
C'est plutôt les riches qui font des clochards plutôt que les clochards qui font des riches.
Les clochards qui font des riches, voilà. Les cardinaux venaient le consulter pour leurs problèmes de conscience, puisqu'ils en avaient, en restant à distance pour pas attraper ses puces.
Un auditeur nous dit, et toi, moi je suis athée, Dieu merci. Voilà. Le duc de Wellington avait fait escale à Sainte-Hélène. Bon, ça n'a rien à voir, c'est un peu tard. En revenant des Indes, il avait trouvé le séjour enchanteur. Ben, c'est bien dommage qu'il ne soit pas resté. Voilà. Alors, ça, vous devriez interroger l'abbé Ollanier, qui est un très grand copain de Ratzinger. Il y a une justice. L'abbé Ollanier, au titre de rallié, devait être fait au minimum archevêque in partibus. Pourquoi pas?
Je ne crois pas du tout que l'abbé Ollanier est une mentalité de rallier. En tout cas, dans tout ce que le ralliement peut avoir de.
Je ne vois pas en quoi l'épiscopat devrait être une récompense.
Moi, je lis, hein, je ne prends rien.
La papauté, une ambition. Enfin.
Je ne prends rien à mon compte. Je lis les messages, je ne les prends pas à mon compte. Un pape qui a été membre des jeunesses hitlériennes et qui a été élu le jour de la naissance d'Hitler ne peut pas être totalement mauvais. Je crois que c'est une provocation, ça.
Ouais.
Ne soyez pas aussi dur avec les athées,
monsieur Debecker. C'est exagéré et insignifiant.
Vous faites preuve de sectarisme. Bah, bien sûr que je suis sectaire, il manquerait plus que ça, en plus, que je sois tolérant.
Oui.
On en parlera après. Le cardinal Rampolla, jugé trop francophile. L'Autriche-Hongrie avait mis son veto contre lui, il s'agissait de la succession de Léon XIII. Mmh. Et Pidis a été élu contre ce cardinal Rampolla. Savez-vous quelque chose de cette histoire?
Oui, bien sûr, oui. Je renvoie au livre publié, magnifique, splendide, d'histoire et de précision, publié par les éditions Sicre sur l'élection de Saint-Pidis. C'est un livre absolument précis en tout.
Et alors, la parole est aux athées. Les invités veulent nous faire croire que le Saint-Esprit joue un rôle dans l'élection du pape. J'ai l'impression que vous n'avez pas dû faire beaucoup d'études. Car au cours des siècles, beaucoup de papes étaient de franches crapules ou des hommes politiques, tiens, pourquoi où, qui ne pratiquaient guère les vertus évangéliques. Est-ce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit était aux abonnés absents? Depuis hier, on entend beaucoup de bêtises et la flagornerie est très répandue.
J'ai trois messages.
Ouais, j'espère y contribuer.
Un auditeur, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le fait qu'on essaie de salir le nouveau pape? Et pensez-vous que le nouveau pape va rappeler à l'ordre nos évêques qui nous ont demandé de voter oui au référendum en attendant probablement d'accueillir la Turquie à bras ouverts? Et enfin, est-ce que l'élection de Benoît XVI va remettre en place la tentative de dialogue entre la Fraternité Saint-Pidis et le Vatican? Est-ce que cette élection va permettre de résoudre la crise au sein de la Fraternité Saint-Pidis?
Ben déjà, si Ollanier devient chevêque in partibus, il y a des chances que ça s'arrange.
Non, mais je crois qu'il est indéniable, si vous voulez, que le cardinal Ratzinger a manifesté, étant cardinal, une réelle sympathie vis-à-vis des traditionnalistes, quels qu'ils soient. Parce que pour lui, il est clair que l'enjeu, c'est de revenir à la tradition liturgique et à la tradition théologique. Et quand on voit combien d'autorité il a voulu célébrer la messe en latin pour l'enterrement du pape, même si c'est la messe selon le nouveau rite,
avec le canon romain complet.
Mais en fait, c'est la messe, c'est le canon romain, pratiquement identique dans sa lettre, pas tout à fait dans son esprit, mais pratiquement identique au canon de la messe traditionnelle. Et certainement, beaucoup de dents ont dû grincer à Rome devant ce choix qui n'est pas gratuit. Donc,
je pense que Mgr Marini va être nommé nonce peut-être à Téhéran.
Parce que c'est là pour faire suite à Bunini.
Donc il était le secrétaire.
Voilà.
Bien. Ben écoutez, je vous remercie d'être venu nous parler. Tout ça, moi, je veux dire que j'avais pas d'opinion très arrêtée, mais là. Le sentiment, enfin la réaction naturelle de plaisir, de joie que j'ai eue en apprenant ce matin que nous avions un pape a été encore augmentée par les réactions immédiates de la canaille, parce que il faut dire que quand on ne sait pas exactement quoi penser d'un sujet, il suffit de regarder ce que pense l'ennemi, l'adversaire avec un grand A, et très vite on arrive à tirer des conclusions. Donc quand j'ai entendu toute la racaille des gauchistes qui disaient aïe aïe aïe, mais alors nous on espérait qu'il allait accepter
le mariage des prêtres homosexuels.
De légaliser l'avortement pour les prêtres femmes lesbiennes, c'est raté, ça ne marchera pas, etc. Et donc
les soutanes roses.
Et les soutanes roses. Bon.
C'est pour
donc, quand déjà quand j'ai entendu ça ce matin, le seul sujet de conversation sur les radios que j'écoute, c'était l'avortement, l'homosexualité et la capote. Alors là, on en a eu pendant des tartines, pendant 2 heures. Le seul truc qu'ils avaient retenu dans l'élection du pape, c'est que les marchands de capote n'allaient pas faire encore fortune.
Ce qui est très important, c'est que sur la morale, le cardinal Ratzinger a eu des positions très précises, par exemple dans Donum Vitae, sur la procréation médicalement assistée, etc. Mais c'est surtout un théologien. Et donc, il va certainement contribuer à mettre le débat à son vrai niveau. L'Église n'a pas enseigné la morale, si vous voulez, directement. En tout cas, elle ne le fait qu'indirectement. Ce qu'elle enseigne, c'est la foi, c'est-à-dire le moyen de posséder la vie éternelle. Et je crois qu'avec le cardinal Ratzinger, on va avoir un recentrage très théologique de l'enseignement romain.
Très spirituel. C'est un nom de moine. Il a choisi un nom de moine.
Dieu vous entende, messieurs, si j'ose dire. Merci en tout cas d'avoir pris la peine de venir nous voir. Vous ne quittez pas l'écoute, puisque j'ai encore 2 ou 3 questions à poser à monsieur l'abbé de Tannouarne. Éric Lebec, merci. Alors, quand paraît votre livre, vous ne le savez pas exactement?
Non, je vous dirai ça.
Ces jours-ci.
Voilà. En tout cas, on peut se procurer chez Albin Michel, l'histoire secrète de la diplomatie vaticane,
qui est un bouquin utile à la compréhension des événements.
Je vous remercie, et qui est un livre facile à lire parce qu'il a un index des noms propres et par conséquent les journalistes peuvent aller directement.
Et c'est la diplomatie vaticane de quand à quand?
C'est à partir du début, en gros, à partir du début de la première mission diplomatique de Pacelli.
C'est très contemporain. C'est d'une écriture romaine. C'est-à-dire, c'est d'un style qu'on ne trouve plus facilement aujourd'hui. C'est le style d'Éric Lebec, je le dis parce que je le pense, tout simplement, est un style d'une élégance exceptionnelle et d'une clarté, n'est-ce pas, mon cher Patrick? D'une clarté rare. Voilà. Maintenant, les gens écrivent n'importe quoi.
Voulez-vous rappeler quels étaient vos invités?
Alors, Éric Lebec, qui est journaliste, écrivain et spécialiste des questions religieuses et du Vatican, et monsieur l'abbé de Tannouarne, Guillaume de Tannouarne, qui est prêtre, comme son nom l'indique, et comme son titre l'indique, et qui va nous dire maintenant ce qu'il fait, puisque c'est la question que je m'en vais lui poser.
Oui, alors, écoutez...
Quelle est votre situation? Parce qu'on a beaucoup d'appels d'auditeurs qui disent, mais alors... Que devient l'abbé de Tannouarne?
Eh bien, écoutez, l'abbé de Tannouarne est là. C'est déjà une première chose. Non, j'ai été donc... Monseigneur Félé, supérieur de la Fraternité Saint-Pédis, a souhaité que mes engagements dans la Fraternité ne soient pas renouvelés parce que je m'étais solidarisé avec l'abbé Laguéry en le défendant, en défendant son droit à faire appel après la décision qui le frappait. Je crois de toute façon que cette histoire est très sombre et que le temps dira la vérité sur les véritables mobiles de ce qu'il faut bien appeler une purge. Et je ne suis pas le premier à employer ce terme de purge. Donc, je suis prêtre. Un prêtre a une fonction essentiellement sociale. On n'est pas prêtre pour soi. On est prêtre pour donner la grâce par les sacrements, par ce miracle de la messe, par cette merveille de la confession et par tous les sacrements que l'on peut donner. Donc, que faire? Eh bien, je pouvais penser... comme d'autres prêtres qui, dans des conditions plus ou moins semblables et plus ou moins différentes, ont été renvoyés de la Fraternité Saint-Pédis, je pouvais penser aller voir tel ou tel évêque. Je crois vraiment que ce serait prématuré. Pourquoi ? Parce que j'ai été formaté comme fils de Saint-Pédis. Et je crois que dans la Fraternité Saint-Pédis, notre vocation à la face de l'Église, c'est d'essayer de rendre témoignage à la vérité. Et donc, il faut pouvoir lutter pour la tradition de l'Église avec une totale liberté de parole. Cette liberté de parole est quelque chose de très rare dans l'Église institution. Un prêtre qui reçoit une paroisse de son évêque ne peut pas dire ce qu'il voudrait dire pour défendre la tradition, et il ne peut pas célébrer la messe comme il doit la célébrer pour être fidèle aux formes de la tradition. Donc ce ralliement pour l'instant est vraiment impossible. Que faire? Eh bien, j'ai heureusement beaucoup d'amis, des laïcs, des prêtres, et nous avons décidé de continuer le combat pour la tradition à Paris. Non pas en créant une véritable paroisse qui recevrait des milliers de paroissiens par dimanche. Et il ne s'agit pas donc de faire concurrence à telle ou telle autre paroisse, mais je crois que on peut et on doit mener aujourd'hui un combat culturel pour la tradition catholique. C'est donc un centre culturel chrétien que je vais fonder avec des amis prêtres et laïcs. Les prêtres, eh bien, parmi les prêtres, il y a bien sûr Monsieur l'abbé Aulagnier. Il n'est pas seul. D'autres se sont annoncés. Il est un peu tôt pour donner leur nom, mais Monsieur l'abbé Aulagnier dira la messe d'inauguration de notre centre Saint-Paul le 1er mai prochain. Je tiens beaucoup à cette date du 1er mai. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé un local de 300 mètres carrés rue Saint-Joseph. Rue Saint-Joseph,
ça s'impose.
Dans le sentier, tout près de la Bourse. Et il m'a semblé que c'était un premier clin d'œil de Saint-Joseph auquel j'ai voulu répondre en essayant d'inaugurer ce local par une messe le 1er mai, fête de Saint-Joseph, patron de l'Église universelle. Il me semble que cette fête est particulièrement de circonstance aujourd'hui où Joseph Ratzinger vient d'être élu pape.
Alors, une petite parenthèse quand même, une auditrice, un auditeur nous fait remarquer que le 1er mai à 11h, il y aura beaucoup de monde qui aurait beaucoup de monde de place de l'Opéra.
Et même à 9h, place du Châtelet.
Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait d'opposition entre Sainte-Jeanne d'Arc et Saint-Joseph. Mais je suis persuadé que beaucoup d'auditeurs seront curieux de découvrir ce centre, qu'ils le fassent ce dimanche 1er mai ou un autre jour de la semaine ou un autre dimanche. Je crois d'ailleurs, enfin, il est un peu tôt encore pour annoncer les heures des messes, mais il y aura d'autres messes et certainement une messe le soir à 18h30 au même endroit. Donc ceux qui ne seraient pas libres le matin peuvent très bien, après s'être restaurés quelque part dans Paris, venir le soir à cette messe. Je profite que vous me donniez ce micro pour annoncer aussi que je prêcherai un mois de Marie. Le mois de Marie, c'est une vieille dévotion et il faut que nous la revitalisions en nous. Il faut que nous retrouvions la présence de Marie dans notre vie. Et je voudrais donc parler de la Sainte Vierge pendant les 5 dimanches que comprennent le mois de mai à 16h30 chaque dimanche. Donc il y aura la messe, il y aura aussi cette dimension de prédication. Pourquoi ? Eh bien parce que la vocation du Centre Saint-Paul, elle est bien sûr liturgique, il n'y a pas de chrétiens sans liturgie. Les protestants ont cru le contraire, mais il n'y a plus de protestants aujourd'hui. Donc on voit bien, et malheureusement, je sais pas, il ne s'agit pas d'une joie mauvaise, mais on voit bien que sans liturgie, on ne peut pas survivre. La vocation de ce centre Saint-Paul est aussi culturelle et par conséquent pour un chrétien théologique, car le couronnement de toute culture chrétienne, c'est évidemment la théologie. Donc je pense qu'on mettra particulièrement l'accent sur la théologie dans ce centre. Et la théologie n'est pas une science intemporelle. Nous vivons à une époque très mouvementée. Je voudrais annoncer également que nous organiserons dans le cadre de ce centre une réflexion théologique sur le Concile Vatican II et pourquoi ne pas le dire clairement contre le Concile Vatican II qui prendra différents aspects.
Pouvez-vous rappeler l'adresse ?
L'adresse c'est 12 rue Saint-Joseph dans le deuxième arrondissement, le métro Bourse, Sentier, Grand Boulevard. Il y en a un certain nombre.
Il y en a beaucoup, oui. Sentier, c'est le plus
près.
C'est
très bien desservi.
Alors, vous êtes en plus dans un quartier, on en parlait l'autre jour, un quartier qui est très, très chargé d'histoire, puisque c'est le quartier de la Presse, c'est le quartier où est encore le Figaro, c'est le quartier où était François, c'est le quartier où était Minute, nous avons été rue du Croissant.
Et Joël Prieur appréciera.
L'AFP, il y est toujours.
L'AFP, il y est toujours, bien sûr. Et c'est aussi là, au coin de la rue du Croissant et de la rue du Faubourg Montmartre, qu'est né le premier journal à 2 sous, ou 1 sou, je ne sais plus d'ailleurs quel était le prix. C'est donc le premier quotidien.
Écoutez, ça tombe très bien, puisque évidemment l'une de nos ambitions est aussi de contribuer à au développement d'une presse catholique et s'inscrire dans cette tradition de la presse. C'est très volontiers que nous le faisons, bien sûr.
Merci, monsieur l'abbé. Oui.
Un auditeur demande à quelle autorité temporelle vous allez vous référer ?
À quelle autorité temporelle ? Alors l'autorité temporelle, pour un Français, c'est celle de la République française. L'autorité spirituelle pour un chrétien, c'est le pape qui a un pouvoir plénier et immédiat sur chaque fidèle. Et puis, eh bien, c'est l'évêque qui voudra bien accepter cette perspective intransigeante, mais charitable, qui est la nôtre.
Alors, il y a quand même la question qui tue. Êtes-vous excommunié ?
Non.
Non. Non, parce que je crois que le pouvoir d'excommunication n'est pas entre les mains de Mgr Felet encore.
Non, Mgr Felet ne peut pas excommunier. Et quand ceux qui ont été excommuniés formellement, en tout cas, ce sont les évêques consécrateurs en 1988 et les évêques consacrés. Cela d'après le droit canon. On peut bien entendu et on personnellement, je pense, on doit contester la validité de cette excommunication.
Dans un pays où on donne la communion à Jacques Chirac, je trouve que c'est quand même un petit peu difficile de justifier l'excommunication de Monseigneur Lefebvre. Hein.
C'est un gros mot et je vais essayer de le traduire pour les auditeurs. Quand un élève va au coin,
voilà, il est excommunié.
Il est excommunié de la classe. Parfois, c'est avec raison. Parce qu'il a fait le mariole. Mais d'autres fois, c'est
pour
à
faire
tort.
Un exemple.
En fait, c'était son voisin. Je crois que l'excommunication est une sanction. Comme toutes les sanctions, elle est juste ou elle est injuste. Mais l'Église, étant une société spirituelle, n'admet de sanctions valides que les sanctions justes. Donc on peut contester de façon très fondée la validité de l'excommunication de Mgr Lefebvre et des quatre évêques qu'il a sacrés.
Alors, rendez-vous dimanche.
Je rappelle l'adresse du centre Saint-Paul qu'on nous demande beaucoup, 12 rue Saint-Joseph, Paris 2e, métro Bourse, surtout Sentier et Grand Boulevard.
Et c'est un lieu de vie, comme on dit maintenant.
C'est important de donner différentes stations parce que ça correspond à des lignes différentes.
Oui.
Et
c'est un lieu de vie, comme on dit maintenant, le centre Saint-Paul. Il y aura tout.
On veut créer un véritable lieu de vie et que ce soit la source d'un dynamisme spirituel et intellectuel renouvelé dans la capitale.
Merci, monsieur l'abbé. À très bientôt. Vous reviendrez nous donner des nouvelles de cette initiative quand il vous plaira.
Merci, Serge.
Et pour terminer, résumer le sentiment général, je crois, en tout cas autour de cette table, cette élection parlant de l'élection de Benoît XVI, nous a comblés de joie et nous avons fêté cela au champagne. Puisse Benoît XVI remettre un peu d'ordre dans la maison, bien amicalement. C'est signé d'une dame qui est une auditrice fidèle et je trouve que...
J'avoue que moi aussi j'ai acheté une bouteille de champagne pour la circonstance,
J'ai bu du champagne le jour de la mort de Gaulle, on peut bien boire du champagne le jour de l'élection de Benoît XVI quand même. Merci, à bientôt. Messieurs, si vous voulez prendre place pour la suite de l'émission, je crois qu'on va maintenant passer directement à la deuxième partie de l'émission après la coupure traditionnelle et obligatoire. Monsieur Patrick Goffman, j'aimerais bien que vous fassiez repentance à votre tour, parce que vous nous avez fait écrire des choses que je regrette amèrement.
Est-ce qu'il est nécessaire que tous les auditeurs de
je veux que vous fassiez repentance immédiatement, une repentance publique avec corde au cou,
très bien,
pieds alors, nus, chemise déchirée.
J'ai déjà une corde en soie autour du cou, du plus beau rouge, et je confesse alors très volontiers que c'est moi qui ai rédigé une brève dans le numéro 347 du Libre Journal. Dans mon aveuglement et mon admiration aveugle pour notre vaticanologue qui donnait, comme vous le rappeliez tout à l'heure, Monseigneur Teta Manzi comme pour le prochain pape, j'ai poussé ça jusqu'à l'absurde en écrivant la pauvre presse internationale donne Teta Manzi dans le tiercé gagnant très bien, mais elle donne aussi Ratzinger qui n'a aucune chance. Alors je ne vous cache pas que j'ai même jusque chez moi des coups de téléphone ironiques et un petit peu moqueurs de,
oui, je vois de qui en plus
de certains amis. Voilà, donc mea culpa, mea maxima culpa, je ne le ferai plus. Je tâcherai surtout d'être moins enthousiaste et moins...
L'abbé de Tannoir n'est en partie, il peut pas vous donner l'absolution, mais je pense que ça s'arrangera plus.
Je m'adresserai au directeur de la publication du Libre Journal.
Moi, j'ai pas les pouvoirs. Hein.
Imprimé. Le numéro...
Il n'y a pas que des bêtises dans ce numéro, quand même.
Non, loin de là. Ah non, le numéro 347, là, dont nous parlions, c'est une toute petite brève, hein, de 5 lignes où c'est vrai, j'ai un peu dérapé dans votre dos, hein, je l'avoue, mais il y avait quand même pas mal de choses, et notamment sur les scandales du charity business, et en particulier le texte de Jacques Chirac, pourquoi nous disons non. Non à la politique de supranationalité, non à l'asservissement économique, non à l'effacement international de la France, non à une France vassale dans un empire de marchands, et c'est signé Jacques Chirac. On peut donc se procurer ce texte en commandant le numéro 347.
Oui, mais je voudrais signaler à nos lecteurs et amis que dans le numéro 349, nous publierons très exceptionnellement une page affiche en couleur. Enfin, en couleur, oui, bleu, blanc, rouge, avec cet appel solennel de Jacques Chirac à voter non, non à cette Europe-là, parce que quand même, ça mérite, comme toute la télévision, toutes les radios, toutes les télés, tous les journaux passent leur temps à nous mentir, en nous disant que Chirac est pour l'Europe marchande, pour l'Europe des voyous, pour l'Europe des gangsters, pour l'Europe des mafias, pour l'Europe du fric, du pognon et de la cochonnerie. Mais c'est pas vrai, il a appelé solennellement à voter non, et il faut le faire savoir. Donc j'ai décidé que cet appel, qui est scandaleusement censuré par la presse française, qui est absolument authentique, j'ai décidé qu'il fallait lui donner une présentation spéciale. Donc dans le journal, il y aura ce qu'on appelle un jeté, c'est-à-dire non attaché au journal, on sera pas obligé de le déchirer. Il y aura une page affiche qui proclamera le non solennel de Chirac, l'appel solennel à voter non à cette Europe-là. Et vous pourrez la photocopier en couleur, ça coûte pas des fortunes, et afficher,
Dans les rues. Comme l'appel du 18 juin.
Distribuer, voilà, à vos camarades, si vous en avez, à vos amis s'il vous en reste, etc. C'est un gros effort financier que nous consentons, mais je pense qu'il est nécessaire dans le cadre du combat contre, d'une part, la menace que représente la Constitution européenne, et d'autre part, le scandale absolu que constitue le mensonge formidable sur la position du président de la République, Jacques Chirac.
Mais certains vont jusqu'à essayer de faire croire qu'il aurait élaboré la directive Bolkestein, alors que il a dit et répété qu'il l'avait fait effacer.
Il l'a fait effacer, absolument. Bon, il a demandé qu'elle soit effacée et que les autres s'en foutent complètement, ça c'est certain.
Il n'y peut rien.
Lui, il dit, alors immédiatement, les Européens ont dit, mais pas du tout, on s'en fout de ce que pense Chirac. La directive Bolkestein, elle est faite et elle restera pour la Ligue. Mais enfin, lui, en tout cas, il a fait le nécessaire. Et on n'écoute pas assez ce que dit Chirac. Faut dire, des fois, c'est un peu confus, on comprend pas tout, mais si on fait un effort d'intelligence.
Alors je finis, Serge, à propos du Libre Journal imprimé, puisque nous avons parlé du numéro 347, vous venez de parler du numéro 349 apparaître. Donc quelques mots pour finir sur le numéro en cours, 348. Une toute petite anecdote simplement, nous finissions de fabriquer ce journal le jeudi 14 avril. Et comme ça arrive fréquemment aux journalistes, on était un peu embarrassés parce que l'événement de la semaine, c'était quand même le soir même, 14 avril, le numéro de Chirac avec les jeunes sélectionnés par la Sofres à la télévision. Et donc nous avons, comme dans chaque numéro, un grand article de François Brignot, la signature historique de la presse patriotique. Et Brignot nous donnait comme titre Jean-Paul II, ; n'ayez pas peur, votez non. Alors bon, on a quand même souri, on a quand même pensé qu'il était un peu gonflé, et on a titré, on a fait une accroche à la une disant Brignot en brigade Jean-Paul II. Et on trouvait qu'il était quand même un peu culotté, que nous-mêmes on était un peu culottés de passer ça. Quelques heures plus tard, Chirac à la télévision, qui a refusé, et ça il ne le nie pas du moins, qui a refusé d'inscrire les racines chrétiennes de l'Europe dans le projet de constitution, par deux fois a répété, a embrigadé à son tour, ou tenté d'embrigader Jean-Paul II en disant « n'ayez pas peur », à son tour. C'est quand même une anecdote, donc une petite histoire de presse saisissante. Alors, j'en termine. Nous avons dans ce numéro 348 l'affaire Seznec. Non seulement la piété filiale qui est manifestée dans cette affaire, mais le délire légal qui s'ensuit. Nous avons une révélation historique. La mosquée de Paris cachait des juifs pendant l'occupation. Nous avons une interview sur deux pages du policier qui vient de refaire l'enquête sur le pullover rouge et qui anéantit les comptes de Perrault. Nous avons des reportages en Malaisie, en Antarctique. Nous avons, je l'ai dit, François Brignot, nos rubriques habituelles. Et on peut donc commander ce numéro, que ce soit le 348 dont je viens de parler, le 347 précédemment ou le prochain, toujours à la même adresse. Donc un carnet de timbre ou 5 euros pour un seul spécimen, 110 euros pour être abonné et recevoir 3 fois par mois ce journal sur 24 pages pendant un an. C'est à l'ordre de SDB 4 place France List 75010 Paris. Si l'on n'est pas encore convaincu, nous offrons gratuitement de très vastes archives au site internet France Courtoise en un seul mot .info.
J'ajoute que la couverture, enfin la photo de une du numéro 348 propose une très belle photographie de Monsieur et Madame Chirac en compagnie du futur Premier ministre. Enfin, on peut, étant donné le niveau intellectuel du gouvernement, on peut penser que c'est lui. Je me tourne à présent vers Messieurs Michel Thory et Jean-Christophe Carme, qui sont respectivement secrétaire général et président du syndicat Action Police CFTC. Je ne vais pas les faire comparaître devant un tribunal journalistique, comme c'est la mode en ce moment, mais enfin, quand même, messieurs, j'aimerais bien avoir vos lumières sur le rapport qui vient d'être publié, d'où il ressort que, finalement, la police française serait un repère d'horribles racistes. Il y a eu au moins, je ne sais pas combien, 37 cas en un an de contrôle d'identité, qualifié de raciste par je ne sais quelle autorité d'ailleurs, mais enfin, vous allez certainement pouvoir m'en dire plus. Alors, blague à part, comment c'est reçu par les policiers, ça, ce genre de campagne?
Bien évidemment, très, très mal, puisqu'encore une nouvelle fois, on pointe la police du doigt et ses exactions, on va dire, ses exactions, sachant que effectivement les chiffres retenus sont a priori fondés, puisqu'en fait ils sont issus de sources judiciaires, puisque lorsqu'il y a des violences policières, bien évidemment, il y a deux phases. En fait, il y a une phase administrative qui vise à établir la culpabilité entre guillemets du fonctionnaire et à charge pour l'administration de le sanctionner administrativement, et une autre phase qui est elle proprement judiciaire, qui est totalement indépendante de l'action administrative, l'une et l'autre ne se liant pas. Et là, effectivement, si le fonctionnaire est jugé coupable de coups et blessures, par exemple, dans l'exercice de ses fonctions, là, la source est sûre. Par contre, le chiffre retenu, effectivement, est de 37 cas, alors que le nombre d'actions de police quotidiennes est absolument incalculable sur l'ensemble du territoire national. Donc, déjà, il faut, je pense, recadrer les choses en mettant bien en évidence ces chiffres. On arrive à un pourcentage extrêmement faible.
Comment expliquez-vous, d'une part, que on puisse nous dire que sur trois personnes victimes d'actes racistes de la part de la police, enfin victimes de violences policières, il y a deux personnes visiblement d'origine étrangère? C'est ce qu'a rapporté la presse.
Eh bien, écoutez, c'est pas notre habitude, hein, puisque nous sommes syndicalistes, on peut réagir par nous-mêmes. Mais là, pour une fois que la direction va dans notre sens, je me retrancherai derrière les propos du patron de l'IGS, qui a déclaré à la presse, hein, en fait, que bien évidemment, ces chiffres, encore une fois, sont proches de la réalité, puisqu'il y a une surreprésentation de la population d'origine immigrée, hein, sans viser quelques appartenance d'État.
Enfin, vous voulez dire que le patron de l'IGF a dit que le nombre de délinquants n'était pas proportionnel directement au nombre des personnes.
Bah, c'est-à-dire que très exactement, il a dit qu'il y avait une surreprésentation dans la population délinquante de l'immigration ou de jeunes issus de l'immigration.
C'est une révélation en fait. Moi, je m'attendais pas du tout à ça.
Tout à fait.
Je pense que tout le monde, Patrick,
c'est étonnant. Et puisque vous m'offrez la parole, je voudrais indiquer que la montée en épingle, la mise en épingle de ces 35 cas est manifestement une opération de propagande, et je voudrais vous le démontrer très brièvement. Vous savez que nous avons des amis non seulement dans la police, mais même plus inattendu dans tous les gros médias. Et un de nos amis dans les gros médias m'a raconté que quand cette information, entre guillemets, est tombée, lui, en tant que journaliste dans un gros média qui ne peut presque jamais dire ce qu'il pense vraiment, puisque c'est un de nos amis qui ne peuvent pas se manifester dans ces gros médias, il a refusé de passer, il a dit qu'il refusait de passer ce communiqué de propagande. On l'a menacé de licenciement immédiat, et il l'a passé sous la contrainte. Voilà comment ça se passe aujourd'hui dans les grands moyens de communication de la France démocratique.
Et de toute façon, pour un petit peu étayer tout ça, moi je serais tenté de dire qu'il faut pas être surpris finalement que de plus en plus la police soit médiatisée de par des bavures ou de par d'autres choses qu'on peut lui reprocher, tout simplement parce qu'aujourd'hui on crée une situation au niveau de notre pays qui est de plus en plus grave. Moi j'écris régulièrement pour dénoncer la montée de certains phénomènes qui sont extrêmement inquiétants, je pense aujourd'hui. Les policiers pour moi sont de véritables baromètres, on va dire, de la société, qui mieux qu'un policier au contact de la réalité des choses peut se rendre compte de l'évolution d'une société. Et aujourd'hui, il y a des phénomènes inquiétants. J'entends parler de la ghettoisation du territoire. On assiste véritablement, avec l'explosion de la police de proximité, le redéploiement police-gendarmerie, la difficulté en fait de ne plus être implanté finalement dans les quartiers, de ne plus rentrer ou très peu dans les zones de non-droit. On assiste à une véritable ghettoisation de notre société, de notre pays. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Pour preuve, on va parler de la Rota, la police brésilienne de lutte anti-criminalité, qui aujourd'hui doit faire face finalement à un pays quasiment en guérilla urbaine, en guérilla civile. C'est catastrophique. Et bien évidemment, plus les missions sont dangereuses, plus les fonctionnaires sont soumis à la pression de perdre leur intégrité physique, voire même de leur vie. Bien évidemment, on est obligé, les policiers sont obligés pour se défendre, d'être peut-être un petit peu plus fermes dans leurs interventions, de s'imposer. Il n'y a pas là de violence raciste, où il n'y a pas de fait d'extranéité qui peuvent dire. Moi, il n'y a aucun critère aujourd'hui qui me fait dire que la police nationale est raciste ou qu'il y aurait une montée des violences policières. Tout simplement, il y a une médiatisation plus importante d'année en année, tout simplement parce que la délinquance augmente. Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Il y a un rapport de l'Observatoire national de la délinquance qui est tombé, une étude du 2 mars de cette année, 2 mars 2005. On a constaté depuis 1996 une montée de 72% des violences physiques sur personne. 72%. Pour nous, il est clair, on est syndicat de police, ça témoigne une inefficacité complète, finalement, de notre concept sécuritaire. On se trompe, et on s'est trompé. Aujourd'hui, dire que la politique qu'on mène depuis plus de 20 ans en matière de sécurité est efficace, c'est non. Là, on a un rapport d'une organisation, d'un organisme indépendant qui nous montre plus 72% de violence physique sur personne constatée. Donc aujourd'hui, il est indispensable de revoir notre concept sécuritaire, et nous, c'est très précisément ce qu'on propose par un programme étayé, un nouveau concept, hein, le concept de proximité option tolérance zéro, donc concept qui est basé en fait
Donc tout simplement sur le système de police de proximité, concept doctrine qui avait été fondé au Canada, donc où on travaille autour de la reconquête de territoire, mais jumelé cette fois-ci avec un concept de tolérance zéro tel qu'elle a pu l'appliquer le maire de New York, Rudolph Giuliani, qui a vraiment répondu à un problème de montée, de flambée de la délinquance.
Je pense que vous êtes dans votre discours là, et ne voyez pas du tout d'agression dans ce que je dis, mais vous venez de dire une chose absolument énorme, que vous dites naturellement, ce qui prouve que vous êtes rompu à ce discours, mais vous venez de dire la question de reconquête du territoire, c'est-à-dire qu'on est en situation de reconquête du territoire français occupé par des gens.
Tout à fait. Ah mais nous on est convaincus, c'est au cœur même du concept. Hein. Alors nous quand on parle de perte de territoire, il n'y a pas de, on va dire, on entend bien simplement des groupes, des groupes de personnes qui soient français d'origine maghrébine ou peu importe. Pour nous, c'est simplement pour nous des États dissidents, de la sédition qui se met en place sur le territoire national, qui crée leur propre lois, leurs propres règles, leurs propres modes de vie, et qui se mettent en fin de compte en décalage avec les lois étatiques. Donc on a une obligation, bien évidemment, on a une obligation de reconquête de ces zones-là. Si on n'est pas en capacité aujourd'hui de reconquérir ces zones-là, bah, justement par un concept de proximité, c'est-à-dire en imposant l'état de droit, en faisant rentrer donc les fonctionnaires de police qui sont garants de la démocratie et de l'état de droit dans les cités et dans les différentes zones de non-droit pour réaffirmer l'état de droit, l'autorité, faire respecter notre idéal démocratique, bien évidemment, court à la catastrophe. C'est le propre de la ghettoisation du territoire qui engendre l'armement de la population, la privatisation de la sécurité et tous les phénomènes qu'on peut dénoncer et qui vont autour de cette perte de territoire.
Alors, la question, quand vous tenez ce discours à vos supérieurs, enfin à vos supérieurs, à l'autorité, à vos autorités, lesquelles sont des autorités qui sont placées sous l'autorité du politique directement, quelle est leur réaction?
Eh bien, pour l'instant, notre concept est absolument pas à l'ordre du jour, hein, puisque de ministère en ministère, eh bien, chacun ses petites idées sur comment imposer la sécurité au niveau national.
Quelle alternative, enfin, quelle autre solution propose-t-il?
Bien, écoutez, pour l'instant, on peut faire le bilan de la police de proximité mise en place sous la gauche. Le bilan, je pense qu'il est simple. Hein. On a axé effectivement le concept de proximité, qui est un bon concept, puisqu'il y avait une volonté de reconquérir les territoires. Par contre, le problème, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est les associations finalement qui pilotaient le dispositif et qui nous imposaient le concept de sécurité. On a mis en place
les associations dans les cités, même.
Bien sûr, les associations de quartier. Le concept a été vraiment, on va dire, gangréné par tout ce qui est contrats locaux de sécurité politique de la ville. Il n'y a pas du tout près de répression, mais simplement de la prévention. Aujourd'hui, moi, je dis, je l'écris, je pense qu'il faut revenir sur la prévention.
Qu'est-ce qu'on appelle la prévention?
La prévention, c'est tous les moyens qu'on peut mettre en termes d'argent, en termes de réunions, etc., pour dire aux délinquants, faites pas du mal, parce que c'est pas bien. Aujourd'hui, ce concept-là ne fonctionne pas. Il faut se tourner vers un nouveau concept, le concept de proximité option tolérance zéro, avec un système de dissuasion. La dissuasion, c'est quoi? C'est tout simplement ce que la France fait à grande échelle pour se prémunir éventuellement et protéger sa souveraineté nationale contre une éventuelle attaque d'État tiers. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle dissuade. Elle dit voilà, nous on a une armée forte. Oui. Voilà, on a l'arme nucléaire. Si vous nous attaquez, il va y avoir riposte. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut montrer aux délinquants. C'est plus lui dire ne commets pas de crime ou de délit parce que c'est pas bien, c'est pas gentil. Il faut respecter l'État de droit. Aujourd'hui, il y a une négation de l'État de droit. C'est devenu un mode de vie de cracher sur l'État et sur les représentants de l'ordre, puisqu'on est directement les représentants de l'État et de la démocratie et de nos valeurs républicaines. Donc aujourd'hui, eh bien, il faut dissuader.
On va pas les dissuader, par exemple, en les envoyant dans des centres fermés qui sont de véritables châteaux, où ils ont 3 ou 4 domestiques chacun, où ils mettent le feu, où ils s'évadent, où ils reviennent, où ils mènent une vraie vie de château.
Et ça fait partie, en fait, du puissant fond qui a été donné à la politique de la ville, c'est-à-dire un véritable budget sans fin, c'est-à-dire qu'on achète la paix sociale, donc la personne
on se tranquille parce que la paix sociale
ne tient pas de toute façon. Hein.
Dites-moi une chose, est-ce que vous êtes la seule, vous êtes CFTC, hein?
C'est ça, oui, tout à fait.
Est-ce que vous êtes la seule association syndicale qui qui propose des solutions de cette nature, ou est-ce que vous êtes
actuellement on peut dire qu'on est les seuls en termes
le principe
termes
innovateur de le sûr. Principe innovateur, effectivement on ne joue pas spécialement le jeu du ministère. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler pour nos collègues, pour leur intégrité, également pour la sécurité du territoire. Maintenant, si c'est pour faire la carrière d'un ministre, ma foi, il la fera sans nous. Ouais. Donc peu importe.
Vous prenez par exemple le syndicat majoritaire de la police nationale, Alliance Police Nationale. Ils sont un petit peu affligeants, puisque quand on a assisté à la prise de fonction du ministère de l'Intérieur par Nicolas Sarkozy, bah finalement ils ont fait tout son jeu durant le temps qu'il est resté au ministère de l'Intérieur. C'était quasiment son bras politique et son bras de communication pour faire passer un petit peu tous ses projets au niveau de nos collègues, hein. Et puis bon, bah aujourd'hui que c'est monsieur de Villepin, Alliance c'est pareil, vous prenez leur dernier petite feuille de chou, bon c'est en gros, on a un petit peu l'impression que c'est le service de communication,
c'est le bulletin du ministère, en fait.
Donc je pense que bon, c'est pas le rôle d'un syndicat de police. Et puis ensuite, on est là. Je pense qu'on peut établir un partenariat avec le ministère. Hein. On est reçu nous par les hauts fonctionnaires, et ils sont, je pense, eux aussi en demande. Il y a une vraie volonté quand même, malgré tout, du ministère. Hein. Il faut le souligner, de lutter, de trouver des solutions aux problèmes d'insécurité sur notre territoire. Maintenant, à nous d'imposer nos concepts, nos idées, ou tout du moins des proposer pour trouver un partenariat. Mais de toute façon, une chose est claire, si on ne revient pas sur nos fondamentaux et sur notre concept de sécurité, là, le pays est en train de se ghettoiser et on court à la catastrophe. Et il faudra s'attendre dans les années à venir à avoir effectivement une police nationale et des services de sécurité proches de ce qui se fait dans les pays où c'est pratiquement une guerre civile. Je parlais effectivement de la ROTA, une des polices qui a été mise à l'index un petit peu par quelques associations, parce qu'effectivement, on l'estimait un petit peu pas très démocratique, un peu trop musclé au niveau des interventions, mais une fois de plus...
Oui, mais il y a un moment où on comprend très bien que la police devienne musclée, parce que les gars, ils défendent plus l'ordre social, ils défendent leur peau.
Bien évidemment. Mais je crois que c'est un phénomène de mode, tout simplement. Aujourd'hui, c'est bien d'attaquer la police et de dire que la police, enfin, elle est pas bien, elle est pas gentille.
Ça marche encore, ça.
Tout à fait. Là, il y a eu trois éclairages. Vous parliez du fameux rapport, donc il y a eu Amnesty International. Dans la foulée, l'Observatoire du Code de Déontologie, encore une nouvelle entité qui a été montée pour éclairer évidemment les vilains petits canards de la police,
hein, et engraisser quelques copains.
Voilà. Et la troisième, le montage en épingle de quelques petits coups de matraque sur les militants d'extrême gauche du CAL, qui ne représentent qu'eux-mêmes, c'est une poignée. Il y a des proviseurs qui ont déposé plainte contre leurs agissements, ils ont mis le feu au lycée. Ils sont extrêmement marginaux, par contre ils sont pilotés par l'extrême gauche. Et encore une fois, alors que il faut bien comprendre que sur les soi-disant matraquages des lycéens, il faut bien comprendre déjà que l'action de la police, lorsqu'il s'agit d'un établissement scolaire, d'état scolaire, eh bien, elle est soumise à autorisation du rectorat. Donc, c'est l'éducation nationale qui commande l'intervention de police. À charge pour nous de faire quoi? On nous demande de disperser. On peut, par le dialogue, il y en a certains, hein, par les ultras, on leur dit, il est temps de se disperser. Bon, ma foi, là, 80% s'en vont. Il reste une trentaine de nervis, encore une fois, pilotés par... Et on le sait très bien, d'ailleurs, c'est très dangereux pour les jeunes, hein, qui sont pilotés directement par la LCR. Et c'est des jeunes qui, à 20 individus, arrive à bloquer deux ou trois établissements scolaires.
De ce point de vue-là, Serge, il serait intéressant de demander à nos amis syndicalistes chrétiens ce qu'ils pensent des événements du 8 mars, où les mêmes dont vous venez de parler...
C'est un peu la question que j'allais poser, parce que...
Je vous laisse le faire, là.
J'allais vous demander, vous avez parlé de surreprésentation dans les milieux délinquants, de certains groupes, mais est-ce qu'il y a une surreprésentation de certains groupes dans les milieux victimes?
Oui, je pense qu'en fin de compte, aujourd'hui, il faut plus le voir en termes de surreprésentation de telle ou telle personne. Tout simplement, aujourd'hui, je pense que il y a une véritable souffrance qui s'exerce de par la montée des violences en France. Et je pense que les premières victimes, et souvent, je vais peut-être pas dire les premières, mais sont autant victimes de la délinquance, de la montée du communautarisme. Je pense à des jeunes maghrébines de première, deuxième ou troisième génération qui souffrent énormément, énormément dans les cités, puisque bah justement la police, on n'est pas suffisamment présent pour imposer l'état de droit. Et aujourd'hui, dans une cité, bah une fille qui met pas le voile, qui a envie de vivre à la républicaine et vivre un petit peu librement, bah parfois ne peut pas le faire, tout simplement parce que on n'assure pas aujourd'hui l'état de droit sur la totalité de notre territoire national. Et c'est là le propre de la ghettoisation effectivement d'un pays. Et le modèle, je pense, du Kosovo devrait nous alerter au plus haut point, puisque en fin de compte, si on laisse des communautés propres s'installer sur des secteurs, qu'on perd le contrôle de ces territoires-là, tôt ou tard il y aura une revendication qui sera légitime, puisque le territoire sera complètement contrôlé par un lobby, effectivement de demander une propre indépendance. Et là il va y avoir une question fondamentale qui va se poser. Est-ce qu'on est prêt demain peut-être à céder des portions de territoire à des groupes en place, ou est-ce qu'on dira non, on réaffirmera l'état de droit, la République, et on dira on veut contrôler et permettre à tous les citoyens
de vivre. La blague qu'on raconte au moment du Paris-Dakar, quelle est la première ville arabe que traverse le Paris-Dakar? C'est Marseille. Écoutez, ça fait rire tout le monde quand c'est raconté en dehors d'un micro. Alors je vois pas pourquoi on ferait pas rire les gens en racontant au micro. Comment réagissent les policiers? Parce qu'il y a quand même deux questions qui se posent quand on les voit agir. D'une part, on a l'impression que je vous dis les choses comme je les vis et comme je les vois et comme beaucoup de gens les voient. On a l'impression que les flics, comme on dit, ils en ont tellement marre de se faire cracher dessus, injurier, etc., qu'ils passent leur nerf sur les braves gens. Ça, on voit ça tout le temps. J'ai encore récemment assisté à une interpellation d'un bonhomme qui n'avait absolument rien à se reprocher, qui était un brave homme, qui a été traité d'une façon scandaleuse, mais vraiment scandaleuse. Bon, et là, vraiment, on avait l'impression de ça. D'autre part, on constate que quand il s'agit de réprimer des toutes petites fautes, des manquements au code de la route, je pense par exemple au type qui est arrêté le long d'un trottoir avec son moteur qui tourne et qui téléphone, on lui tombe dessus comme si c'était un assassin de vieille dame. Donc l'impression que ça donne aujourd'hui, c'est que il y a une véritable colère des flics qui peut pas s'exprimer sur les véritables provocateurs de cette colère et qui se défoule sur des braves gens qui sont vraiment des citoyens, bon, peut-être en contravention, mais ni des délinquants, ni des criminels. Alors, est-ce que ce sentiment, il est fondé ou pas,
d'après vous? Je parlerai pas de colère en fait contre justement le Pékin moyen, comme vous dites, hein, qui est tranquillement au volant de son véhicule, moteur allumé avec le portable à la main. C'est pas tellement la question. Et effectivement, surtout c'est un phénomène très parisien. La police à Paris est composée de jeunes fonctionnaires qui arrivent de province et qui vivaient dans un environnement tout à fait agréable, avec un cadre de vie agréable, leurs amis, etc. Et arrivent sur Paris avec un traitement qui n'est pas spécialement à la hauteur du coût de la vie sur Paris, avec des problèmes personnels d'intégration. Ils arrivent sur Paris, hein, certains, ils vont dormir, on va dire exactement comme pour l'inscription dans les facultés, devant le centre social pour obtenir des logements. À peine arrivés, ils déposent le baluchon. Enfin bref, ça c'est l'accueil qu'on leur réserve à Paris. Ensuite, en tant que stagiaire, on leur dit de toute façon, c'est pas la peine spécialement de courir après le délinquant. Ce n'est pas, ça c'est de source intérieure. Hein, c'est pas judiciairement rentable, dans le sens où ça fait beaucoup de travail. Ça fait un amas de documents qui finira justement à la corbeille et non pas au parquet. Donc tout ça c'est pas rentable. Et justement, ils ont la pression hiérarchique. Hein. Pareil, encore une fois, du jeune officier, on lui dit, il faut du chiffre.
Du crâne.
Oui, enfin du crâne, du contribuable.
C'est du contribuable. Oui,
du contribuable. Parce que là, au moins, c'est assez facile. Quelqu'un de solvable, bien évidemment.
Bien sûr.
Que voulez-vous?
Donc ça, c'est fondé.
Oui, mais c'est pas une colère contre le citoyen, contre le contribuable lambda. C'est pas tellement la question. Il se défoule pas spécialement contre une personne. C'est-à-dire qu'il a tout un ensemble de données, notamment justement cette espèce de pression, cette culture du résultat, alors que c'est pas un résultat. de faire du stationnement. Le résultat, c'est la baisse de la délinquance et lutter contre le grand banditisme. Ça, c'est du résultat.
Ouais, on n'a jamais vu une voiture en stationnement interdit sauter voilà, le sac d'une jolie dame.
Tout à fait. Tandis que là, effectivement, bon, ça, c'est pas écrit, mais il y a actuellement une véritable pression sur les jeunes fonctionnaires pour du chiffre. Mmh. Et parce que ça, effectivement, ça, c'est rentable. C'est une activité très rentable. À la fin de la journée, vous avez remboursé le coût du fonctionnaire de police pour la collectivité, largement.
Oui, ceci dit, hein, pour rebondir un petit peu sur les propos du collègue, hein, moi, je pense pas, on peut pas parler vraiment de défoulement. Hein. C'est simplement une orientation de mission. Hein. Mmh. Le fonctionnaire de police, on est là. Un policier n'est pas là pour dire, il y a que nous, syndicats de police, qui avons quand même une liberté de parole pour donner un petit peu notre avis, des orientations en matière de sécurité. Mais le fonctionnaire de police, il a une prise de service le matin. Si aux consignes, on lui dit aujourd'hui, tu dois verbaliser un maximum de voitures, du mauvais stationnement, tu fais du rouge, tu relèves du code de la route.
Syndicat de dire, écoutez, merde, on n'est pas flic pour ça, quoi.
On n'arrête pas de dénoncer.
Il y a un aspect très intéressant là-dedans, c'est qu'il est évident que le pouvoir politique, il a tout à fait avantage à entretenir la rupture entre la population et sa police, la séparation. Et moi, ça fait des années que je dis que les flics ne devraient pas s'occuper de la circulation. Voilà, ça devrait être un autre métier.
Non, mais bien évidemment.
Alors, quand on force le jeune flic à verbaliser des gens pour des conneries de rien du tout, et qu'après le type qui a payé une amende, qui s'est fait retirer 2 points et qui a payé une amende de je sais pas combien, 90 ou 100 ou 150 euros parce qu'il était encore une fois en train de stationner, de téléphoner, quand il lit dans le journal qu'il y a un flic qui s'est fait casser la gueule par des, ben il dit tiens celui-là il l'a pas volé, voilà. Mmh. Donc on finit par créer un antagonisme entre les policiers et la population, alors que la population devrait comprendre que les policiers sont là pour la défendre, et ils ont l'impression, ces braves gens, que les flics sont là pour les emmerder uniquement.
Non, mais encore une fois de plus, hein, pour rebondir sur pour vous répondre, hein, tout simplement, le policier ne se pose pas la question de savoir si on emmerde le monde ou pas, entre guillemets, le monde.
Non, mais le policier,
on a simplement des consignes. Un policier, quand son chef de brigade, l'officier, lui dit aujourd'hui ta mission prioritaire, c'est de répondre à telle ou telle infraction. Je pense par exemple au SRPT, le service régional de police des transports, qui a été créé, qui s'enorgueillit de 1300 fonctionnaires. Qui tourne soi-disant et qui répond à tous les objectifs en matière de sécurité. Bon, il y a par exemple des consignes très précises qui sont données aux fonctionnaires de police, bien sûr, qui ne sont pas écrites pour au niveau des appels, pour ne pas relever les infractions à la législation sur les stupéfiants. C'est-à-dire qu'ils ont des consignes, les collègues ont des consignes précises, et quand ils trouvent un petit peu de résine de cannabis et la quantité n'est pas très importante, ils ont consigne de ne pas mettre à disposition d'un officier de police judiciaire le délinquant, tout simplement. Bah, il y a une destruction qui est faite à l'arrache, on balance le produit saisi par la fenêtre du train, et puis voilà, ça en reste là. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est tout ça c'est une politique qui influe au niveau soit du ministère, mais le ministère n'est pas toujours responsable de tout. Il y a aussi les chefs de service au niveau locaux qui, bien souvent, pour avoir du bon chiffre, parce qu'eux aussi souhaitent soigner leur carrière, tout simplement, bah, ils vont réorienter les missions. Et bon, moi, j'ai vu un petit peu ce que propose monsieur de Villepin, tout n'est pas acheté dans son programme. Il a une grosse partie de son programme qui est intéressant en matière de lutte contre le terrorisme, contre la grande délinquance. J'ai vu monsieur Perben, bon, j'ai pas d'affinité particulière avec lui, mais bon, quand même, qui commence à parler de dissuasion, etc., qui veut saisir les biens non justifiés, faire appliquer des lois. Bon, c'est des mots, faut voir si concrètement ça va être imposé. Ouais. Mais il y a le problème aussi, et ça, je le redis, c'est pas tout le temps non plus au niveau du ministère, c'est bien souvent les chefs de service qui se prennent des libertés propres pour faire avancer leur petite carrière, et qui vont donner des consignes, comme c'est le cas au SRPT, de traiter telle ou telle infraction pour que leurs chiffres soient propres et qu'ils puissent présenter des choses potables au niveau du ministère. C'est souvent un gros problème. Mais bon, le gardien de la paix, c'est un exécutant, il obéit un petit peu à ce qu'on lui dit.
Je vais vous faire une proposition, si vous permettez. Parce que je vois les questions, il y a très nombreuses questions, ça intéresse beaucoup nos auditeurs, ils ont beaucoup de réflexions, etc. Mais là, on est un peu serré par le temps. Ce que je vais vous proposer, c'est de revenir dans 3 semaines, un mois. Mmh. On fera une émission plus longue, une première partie d'émission sur ces questions. On vous posera les questions des auditeurs. Et c'est pas une question que vous posez, c'est une remarque que je livre. Beaucoup d'auditeurs nous disent, mais enfin, ça tient pas debout de prétendre que la police est raciste. Il suffit de regarder la police parisienne pour voir que la moitié ou les 2/3 de la police est constituée de gens qui sont d'origine africaine ou maghrébine. Donc, on peut pas imaginer que ces gens-là sont racistes. Ou alors, à ce moment-là, c'est complètement contraire à la vulgate.
Bien, bien évidemment. Et puis bon, pour continuer un petit peu sur vos propos, aujourd'hui, nous, on est content. On a beaucoup de collègues d'origine étrangère, hein, donc qui ont bien évidemment la nationalité. C'est une obligation pour être fonctionnaire de la police nationale, hein, à quelque grade que ce soit. Et je peux vous dire qu'ils font, on a vraiment des gens très bien qui font un très très bon travail. Entre autres, dans les services, je pense aux renseignements, qui peuvent infiltrer, entre autres, tout ce qui est réseau islamique, etc. Et si on les avait pas, on serait en grande difficulté aujourd'hui. Donc, d'où l'importance de ne pas stigmatiser telle ou telle population, mais bien voir aujourd'hui le cadre général de la délinquance. Aujourd'hui, on peut pas dire c'est telle ou telle population qui fait la délinquance. Aujourd'hui, vous allez dans les cités, tout le monde a quasiment la nationalité française. Il y en a qui sont d'origine pure, entre guillemets, pure souche, lignée française, d'autres d'origine maghrébine. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le lobby, on va dire cité, c'est vraiment un mode de vie aujourd'hui. Il y a pas, c'est une façon de parler, de s'habiller, de voir la société. Alors, tous les gens qui vivent dans les cités, on ne sont pas comme ça. Il y a plein de gens qui aspirent à la République, mais il y a un groupe de personnes, il y a des lobbies forts qui sont imposés, donc qui vont se dire soit d'islam radical ou d'autres mouvances, et eux aujourd'hui tiennent complètement ces cités-là, et c'est ce noyau-là qu'on doit casser, mais on ne peut pas le casser si on n'impose pas effectivement une reconquête de territoire par un concept de proximité, en mettant des fonctionnaires de police en civil et en regagnant le terrain. Tout tourne autour de la conquête du territoire. Quand on aura compris ça au niveau français, puisque j'entendais moi souvent mes collègues, pour pas les citer, d'Alliance, qui disent on n'est pas aux États-Unis, il faut avoir une vue française de la sécurité. Non, il faut avoir une vue mondiale de ce qu'est la société, de comment évolue la France, prendre en compte les paramètres, et il faut s'adapter constamment aux nouvelles menaces criminelles contemporaines, et on ne peut le faire qu'en se remettant sans cesse en question sur notre système de défense nationale et sur notre concept sécuritaire. Ça, c'est le fondement de la réussite en matière de sécurité.
Merci. Je vous propose donc de revenir dans un mois, on fera une émission plus complète. On débat, c'est vraiment des sujets intéressants. Il y a beaucoup de réactions très intéressantes des auditeurs. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez donner un numéro de téléphone ou une adresse à
Bah écoutez, oui, donc c'est très gentil. Internet, voilà, hein. Donc déjà le site internet, donc on peut lire un petit peu nos textes au www.actionpolice.com, actionpoliceattaché.com. Par ailleurs, on organise une réunion le 3 mai 2005 à partir de 19h à la Bourse du Travail Paris 10e. Hein, on fait un petit débat sur la sécurité de la France et de l'Europe après le référendum du 29 mai, hein, relatif au traité de constitution.
Ça a lieu quand, vous dites ça ?
Le 3 mai. Le 3 mai à 19h.
C'est place de la République quasiment.
Hein, voilà, c'est 3 rues du Château d'Eau. Hein, c'est la Bourse du Travail, hein, un lieu mythique. Okay. Hein, et on organise une réunion débat. Hein, il y aura un petit verre de l'amitié à l'issue de cette réunion. Hein, donc les auditeurs sont cordialement invités.
Vos collègues qui nous écoutent nombreux.
Espérons-le. En tout cas, merci de nous avoir reçus.
Et bien, à très bientôt pour une émission plus longue et plus complète. Merci
d'accord.
Beaucoup.
Merci.
Et maintenant, on va passer à tout à fait autre chose, puisqu'on va parler de créationnisme. Alors, le créationnisme, c'est le contraire de l'évolutionnisme. C'est-à-dire, c'est le simple bon sens. Quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire une seule seconde que, comme je le dis toujours, le cou de girafe s'est allongé pour pouvoir manger les arbres qui poussaient.
Pourquoi pas,
n'est-ce pas, monsieur Dumont ?
Oui, pourquoi pas. À partir du moment où on peut retrouver des squelettes de girafes au cou court.
Voilà, mais on n'en a pas trouvé.
Bah non.
Alors, autour de cette table, donc, Laurent Glosi, enfin, Jean-Charles Crémieux, qui vient de s'exprimer très, très rapidement et qui est rédacteur en chef de la... Vous êtes rédacteur en chef ou directeur,
parce que je ne sais plus. Rédacteur en chef de la revue,
Science et Foi, qui est la revue du Séché. Alors le Séché, c'est le centre d'études...
Le cercle d'études
pour...
Scientifique et historique.
Scientifique et historique, voilà. Pour une vision chrétienne de l'homme et de l'univers. J'ai déjà dit tout le bien que je pensais de cette association. Je m'empresse de dire que je pense aussi beaucoup de bien d'une autre association, qui est le CEP, que j'aime beaucoup également. Mais ces deux associations travaillent dans des directions... un peu semblable, mais sur des critères différents, et ils ont pensé qu'il valait mieux travailler chacun chez soi, ce qui est leur droit le plus strict, et je reçois indifféremment l'une et l'autre. Le dernier numéro de Science et Foi vient de paraître, il est remarquable comme d'habitude. Merci. Et nous allons parler brièvement de son contenu. L'autre invité, c'est un collaborateur du Libre Journal qui s'appelle Laurent Glosi. Bonsoir Laurent, comment allez-vous ?
Très bien, Serge. Très bien, très bien.
On félicite.
J'ai révisé un peu mes articles parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses effectivement à dire sur le créationnisme.
Alors, c'est Laurent qui m'a... Moi, j'étais assez porté à ce genre de choses. J'avais d'ailleurs proposé il y a fort longtemps à Jean-Charles Crémieux de me donner des articles sur ces questions parce que c'est tout à fait passionnant. Et puis, un beau jour, Laurent est arrivé et m'a dit « Mais moi, je vous propose un premier article ». Qui a eu d'ailleurs un grand succès, qui a été très lu, très apprécié, et dont on a dit qu'il était vraiment très sérieux et passionnant à lire. Il s'agissait, rappelez à nos auditeurs donc quel était votre premier sujet.
Il était paru en mai 2004. Le titre était en novembre 2003, pardon. C'était le second sur les comètes en mai 2004. Donc le premier s'appelait Créationnisme et géocentrisme, ses autres révisionnismes. C'est un article qui a eu un grand succès, effectivement, puisqu'il a été traduit à l'étranger, notamment par des gens qui ne connaissaient pas le créationnisme, pardon.
Qui est une forme de révisionnisme scientifique.
Oui, dans le sens où, effectivement, il s'oppose à une thèse officielle qui dit, par exemple, que les dinosaures ont disparu il y a 70 millions d'années, par exemple, aussi que la Terre aurait plus de 4 milliards d'années. Enfin, bon, les sujets concernant le créationnisme ne manquent pas. Effectivement, donc c'est un article, bon ce premier article a été traduit, y compris en Roumanie, c'est une revue scientifique orthodoxe qu'il a repris. Il est intéressant aussi parce qu'il débouche sur d'autres articles, je dirais que ce premier article est un article pilier, hein, dans ce sens où il déblaye le sujet du créationnisme.
Il montre la direction générale.
Il montre la direction du général. Il démontre aussi que la Bible peut effectivement s'appliquer à des constats ou des observations naturelles, ce qui est complètement oublié dans un monde actuel, puisque dans notre monde actuel, donc, il faut évincer la notion de Dieu, donc la notion biblique. Et de ce point de vue-là, on peut remarquer que l'évolutionnisme, donc le darwinisme, est repris par, et même financé par des gens comme Rockefeller. Donc il s'agit effectivement d'une théorie qui est d'une part anti-biblique, mais qui ne permet pas, et là-dessus il faut être ferme, qui ne permet pas la contradiction, puisqu'il y a des gens par exemple qui sont créationnistes, qui sont scientifiques, et qui n'ont absolument pas le droit de parole à ce sujet.
Le deuxième article est consacré aux comètes, alors c'est un papier qui m'a beaucoup intéressé, parce que il abordait une question qui intéresse les astronomes, qui est la question des comètes. Hein, comment fonctionne une comète? Comment peut-elle? D'où vient-elle d'abord? D'où vient la comète?
Alors là, par exemple, si on prend les thèses évolutionnistes,
qui sont-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous?
Les thèses évolutionnistes sont contradictoires à ce sujet. C'est un des propres du mensonge. C'est que le mensonge, lorsqu'on le met à l'épreuve du temps, à l'épreuve de la réflexion, effectivement, il ne tient pas. Mais encore faut-il avoir la vaillance, je dirais, de cette liberté d'esprit de se poser des questions, de ne pas avoir peur de soi-même, de ses réflexions. Donc pour les comètes, le problème c'est que si l'univers avait plus de 4 milliards, voire 10 milliards d'années, comment une comète qui perd à l'approche du Soleil des tonnes de matière, comment cette comète, par exemple, pourrait-elle vivre ou exister pendant des milliards d'années? Et à ce sujet, on trouve des théories complètement contradictoires qui viennent du même camp. Contradictoires pourquoi? Parce que elles sont juxtaposées selon les périodes. Donc, par exemple, en 1951, Gerard Kuiper trouve une théorie disant, voilà, ben, il y a une ceinture de Kuiper qui existerait au fin fond du système solaire.
Un essaim de comètes.
Voilà. Mais lorsqu'un peu plus tard, par exemple, en 2002, on s'approche de cette ceinture, ben, on se rend compte que les astéroïdes dont on nous avait promis l'existence n'existent pas, ou trop peu. C'est-à-dire qu'on nous en promettait des millions, voire des milliards, et on en retrouve
2002, 600. Et
ils étaient peut-être de sortie aussi.
Ils étaient peut-être de sortie, mais en fait, ils ne sont pas rentrés depuis, parce que je pensais, bon, enfin bon, c'est complètement fou. Et ils nous disaient que la zone d'expansion de cette ceinture était entre 30 unités astronomiques, sachant qu'une unité astronomique, c'est la distance entre le Soleil et la Terre. Donc, entre 30 unités astronomiques et 100 unités astronomiques. Alors là, quand ils ont fait les observations en 2002, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de planétésimaux comme ils le promettaient, hein, quelques années avant. Il n'y en avait plus à partir de 50 unités astronomiques. Voilà. Donc il y a des contradictions. Ensuite, si on prend par exemple le livre de Carl Sagan sur les comètes, qui est un livre haut en images et qui est très bien fait, qui est vraiment véritablement impressionnant, une belle couverture, un prix bon qui est effectivement adapté à la coloration, enfin tout ce qu'on veut. Mais ce livre, lorsqu'on y plonge le nez dedans, là aussi, lorsqu'on ne se laisse pas impressionner par son contenu et son contenant, eh bien on se rend compte qu'il y a quand même un exercice de rhétorique qui est quand même un peu curieux. Par exemple, Carl Sagan, lui, pour les comètes, donc ça c'est tout à fait récent, à croire que la théorie de Kuiper pour lui n'était pas très intéressante ou avait été trop battue en brèche, un peu comme celle de Darwin d'ailleurs, mais ça on le dément pas, on passe à autre chose. Et cette autre chose, c'est le nuage de Oort, où lui, il dit, il y aurait effectivement, là aussi, des planétésimaux qui pourraient, en quelque sorte, permettre aux comètes de se régénérer. En fait, une sorte de station d'essence, pompe à essence. Mais ce qui est marrant, quand on lit le livre, il fait quand même 400 pages. On arrive, par exemple, allez, à 150e page, presque à la moitié du livre. Et il dit, il semblerait que, c'est effectivement une forme de formulation qu'il utilise. Et quand on continue le livre, cette
hypothèse devient une certitude.
Cette hypothèse glisse peu à peu dans le domaine de la certitude.
Avec des comme nous l'avons démontré.
Il suffit de savoir lire. C'est bête comme chou, je dirais. Il suffit de savoir lire. Et on se rend compte effectivement que ces gens-là ne sont pas des gens, je le dis très calmement, ne sont pas des gens sérieux, mais ils sont forts parce qu'ils sont financés, comme le fut Darwin. Darwin fut publicité par Karl Marx. Donc, quand on connaît Karl Marx, du moins par ses fréquentations, ou du moins ce qu'ont pu en expliquer certains pasteurs, je pense notamment au pasteur Richard von Brandt, qui disait que Karl Marx fréquentait une secte satanique, qui parlait de la secte de Johanna Suscott. Donc on voit véritablement qu'on est dans un domaine qui n'est pas celui de la chrétienté. Donc moi je n'ai rien contre le fait effectivement le fait que les gens s'opposent ou aient des doutes à propos de la chrétienté, mais ce qui est gênant, c'est que effectivement ce sont des gens extrêmement dotés en matière financière qui guident la finance à leur église.
Alors, troisième article, c'était sur l'Archéoraptor, et ça, c'était... Oui, vous vouliez dire quelque chose,
Karine ? Revenir sur un élément en liaison avec les planètes, etc. Ça concerne une chose tout à fait curieuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on avait envoyé les premiers satellites sur la Lune, on avait fait... Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la forme qu'ils avaient, des espèces de grosses
très
couches,
bien, oui.
Avec des grandes pattes, de très longues pattes.
D'insectes encore.
Oui, un peu d'insectes, de très très longues pattes et de très larges assises. Et la raison de cette forme tout à fait particulière était le présupposé que la Lune avait donc quelques milliards d'années. Et comme elle n'a pas d'atmosphère, il y avait donc une poussière, tout un amas de poussière stellaire qui s'était déposé dessus, et donc des quantités extrêmement importantes. Et donc le satellite allait s'enfoncer, inéluctablement, s'il n'avait pas cette structure-là, il allait s'enfoncer dans la poussière. Or, chose très intéressante, c'est que le satellite ne s'est pas enfoncé, et qu'il n'y avait qu'à peine quelques millimètres de poussière sur la Lune, ce qui donnerait, si on veut faire une règle de trois qu'ils s'étaient permis de faire eux-mêmes, donnerait à la Lune une origine de moins de 10 000 ans.
Conformément à la Bible, c'est ça votre cheval de bataille.
Alors, c'est-à-dire que oui, nous défendons l'inhérence biblique, qui pour un catholique, je le répète, parce que c'est très important, il n'y a pas que des catholiques, mais je parle aux catholiques, l'inhérence biblique, c'est-à-dire que la Bible n'erre pas, qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. L'inhérence biblique est un dogme de l'Église catholique, c'est-à-dire que toute personne qui se dit catholique doit croire cette chose-là. Et donc nous défendons l'inhérence biblique qui était partagée.
L'inhérence, comme on est à la radio, qu'on peut pas l'écrire au tableau, il faut les plaies.
INE2RANCE, donc elle n'erre pas.
Voilà, donc, c'est pas l'inhérence INH.
C'est pas intrinsèque, voilà. Donc nous défendons effectivement l'inhérence biblique, c'est-à-dire que ce qui était partagé par toute la chrétienté quand on était en chrétienté et qui donnait une vision du monde qui était conforme au livre saint. Et justement, c'est là le fond du problème, c'est que lorsqu'on a voulu chasser Dieu de l'univers, on a attaqué de manière ou directe ou indirecte la Bible. En laïcisant donc cette vision du monde, on en arrivait par conséquence logique à laïciser la société. Et toutes les drames que l'on peut observer à notre époque, tous les soucis que l'on peut voir, toutes les horreurs, les lois iniques, monstrueuses ou criminelles, ne sont que la conséquence de cette laïcisation de la vision du monde. Et donc si on veut rebâtir une chrétienté, si on veut une vraie renaissance catholique, il sera nécessaire de revenir à ses bases, à la fois revenir à cette tradition, mais en même temps avec les outils que nous offre la science moderne, c'est ce que nous faisons au Séché en particulier.
Qu'est-ce qui vous a rapproché du Séché, Laurent Glosi?
C'est un concours de circonstances. C'est un ami, Louis Bérémy, qui m'avait parlé du Séché en premier. Et j'ai fait un voyage avec mon fils, le jour de sa sixième année, on est parti au Loch Ness. Alors je suis parti là-bas parce que j'avais plutôt... J'étais fan plutôt de l'Écosse. Je ne m'attendais pas du tout à me poser des questions sur le monstre, sur le plésiosaure local, je dirais. Donc on est parti là-bas et là quand même je me suis posé une question puisque j'étais dans un petit village et tous les gens y croyaient, mais ils y croyaient pas d'une manière farfelue ou je dirais c'était pas des illuminés quoi. Hein. Ils y croyaient tout à fait paisiblement et je leur ai posé des questions. Qu'est-ce qui vous pousse à y croire, etc., etc. Donc à partir de là, à partir du raisonnement, ou du moins de témoignages de gens tout à fait sensés, par exemple, j'avais vu...
Et désintéressés
comment?
Et désintéressés.
En un seul mot ou en deux?
Des gens sensés et qui n'avaient aucun intérêt à répondre.
Mais par exemple, si je prends le cas d'un...
Intérêt touristique?
Non, parce que c'est des gens qui, dans un village, vous avez toute forme de personnes, hein, je veux dire. Mais je prends par exemple le cas d'Adrian Shine, qui est un scientifique qui travaille dans la LNI, Loch Ness Institution. Et lui, par exemple, quand on lui pose la question du monstre de Loch Ness, tout simplement, est-ce que vous y croyez ou pas? Et bien, il répond, écoutez, je ne sais pas s'il existe. Donc, il y a des gens qui y croient, et puis d'autres qui sont scientifiques.
Il ne sait pas qu'il existe, et il ne sait pas qu'il n'existe pas.
Voilà. Là où c'est intéressant, c'est que moi, à partir de ce genre de questions, parce qu'en fait, ça fait rire tout le monde. Et moi, je me suis dit, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Donc, généralement, les gens ont une réaction par rapport aux choses, ce sont des moutons. On leur dit de rigoler, ils rigolent. On leur dit de pleurer, ils pleurent. Donc, moi, je me suis dit...
Ce qui est frappant, surtout, c'est ça, c'est que... vous avez des gens, quand vous dites, vous parlez du monstre du Loch Ness, ils éclatent de rire. Alors vous leur dites, vous vous êtes renseigné, vous y êtes allé, vous avez vu, vous avez cherché, vous avez lu, vous avez... Oh non, mais c'est des conneries, ça. Voilà.
Oui, bah, ça c'est...
Et de l'autre côté, vous avez des gens qui disent, bah, si, absolument, il existe, c'est certain, vous l'avez vu. Non, mais je suis sûr. Bon, les deux discours n'ont absolument aucune valeur l'un comme l'autre. Hein.
Là où on est vraiment dans le domaine de l'opinion libérale.
La doxa. Voilà. Mais là où c'est intéressant, effectivement, c'est que moi, j'ai recherché des livres dans des vieilles librairies ou des choses comme ça.
Et alors, il faut dire quand même, parce que vous lisez l'anglais, vous lisez le néerlandais, vous parlez
l'allemand,
le roumain, le russe, un peu.
Ou le russe, un petit peu, oui, malo.
Donc, ça vous permet d'avoir... Un...
Alors ça, c'est intéressant. Par exemple, je finis juste sur le Loch Ness. là où effectivement l'histoire du Loch Ness est intéressante, c'est quand même tant moi je suis catholique, bon, parce que je suis catholique, j'ai la foi dans la Sainte Trinité, mais j'ai des amis qui ne sont absolument pas, je dirais, catholiques, qui sont protestants ou qui même ne sont pas chrétiens, qui peuvent être juifs ou musulmans, hein, c'est pas le sujet, le souci, je dirais. Mais le cas échéant, j'avais rencontré effectivement un pasteur baptiste qui m'avait parlé d'un cas semblable au Loch Ness. Qui existe donc aux États-Unis, dans le lac Champlain, entre les États-Unis et le Québec. Canada, ouais. Et il y a d'autres cas comme ça, en Italie du Nord ou autre. Et quand on prend aussi des vieux écrits italiens, on se rend compte effectivement qu'il y a des témoignages qui vont dans cette direction-là. Et cet homme, donc ce pasteur, m'avait dit, Laurent, tu devrais lire la Bible, parce qu'on retrouve, notamment dans le livre de Job, on trouve là la référence d'un animal préhistorique, un peu comme ça, d'un plésiosaure, qui est le béhémoth. On retrouve aussi le Léviathan ou des choses comme ça. Alors là, je me suis quand même posé des questions. Je me suis dit, entre l'Écosse et la Bible, il faudrait quand même être idiot pour suivre là aussi la doxa majoritaire qui stipule que la vérité sort du nombre. Donc moi, je préfère prendre une autre mesure. C'est, je vais réfléchir par moi-même, je vais prendre mes libertés, et on arrive effectivement à des réflexions tout à fait pertinentes.
Je peux poser une question naïve au nom de peut-être quelques auditeurs naïfs. Si les sonars des pêcheurs, de n'importe quel petit pêcheur aujourd'hui, peuvent capter la présence de sardines, est-ce qu'on ne pourrait pas aller mettre un coup de sonar dans le Loch Ness pour liquider cette querelle dont nous parlons ?
Alors, tout à fait, oui.
On peut
le faire, ça a déjà été fait. Mais quand on a la notion de ce qu'est le monde de la presse, je vais prendre par exemple un exemple. Pour ne pas me répéter, le 30 juillet 79, il y a eu le journal allemand, le Spiegel, qui avait effectivement diffusé des photos sur le Loch Ness. Ces photos étaient considérées comme justes, comme vraies. Et après, elles ont été controversées. C'est-à-dire que c'est chaque fois le même système. On avance quelque chose de vrai. Je vais prendre un autre cas. Un cas qu'on a passé aux oubliettes. Dans les ergastules du silence des médias. C'est-à-dire que il y a des pêcheurs japonais qui, en 79, sont allés prendre une forme de plésiosaure dans les filets au bord des côtes australiennes. Je crois que c'est ça, Jean-Charles.
Ils ont pris ça, et en même temps, ça a même donné lieu à un timbre.
Un timbre à des photos. Oui.
Un timbre qui a été édité pour commémorer cette chose tout à fait étonnante.
Et suite à ça, donc, il n'y a plus eu de nouvelles. C'est-à-dire qu'il faut revenir à ce que je disais au début, c'est qui finance la presse, qui finance l'évolutionnisme, et à partir de là, on se rend compte qu'il y a une chape de plomb qui ne veut pas que la vérité, c'est-à-dire, disons, que la valeur biblique par rapport à un monde observé, transpire et sème des doutes dans l'esprit des gens.
Mais on a un très bon exemple de ça dans le prochain numéro du Libre Journal, là, celui qu'on est en train de préparer, où vous publiez un article qui est consacré à Uranus. Alors Uranus a été étudié par Voyageur 2 il y a 20 ans.
Oui.
Donc Voyageur 2 a fait son travail, il a envoyé des renseignements sur Uranus il y a 20 ans. Et pendant des années et des années, des scientifiques se sont penchés sur ces travaux. Ils les ont vraiment analysés. Quand Uranus est rentré, enfin quand les informations envoyées par Uranus sont arrivées à l'époque, les scientifiques ont dit, on peut pas encore se prononcer. Vous comprenez? Uranus vient de photographier... Voyageur vient de photographier Uranus. On a les photos, il faut encore qu'on les analyse. On a tous les documents, mais il y a un gros travail à faire. La formation, elle intéresse les gens à ce moment-là. Parce que l'information, c'est on a des photos d'Uranus. Bon, formidable. Ça intéresse tout le monde. Et puis, les scientifiques disent, mais on peut rien dire, on peut pas vous montrer les photos, attendez, on va voir, on en reparlera quand on aura fini les travaux. Les travaux, ils sont finis, ils sont pas finis. Mais 20 ans plus tard, les scientifiques disent, alors maintenant, on peut commencer à en parler. Mais à ce moment-là, tout le monde s'en fout, parce qu'il y a 20 ans qui s'est écoulé. Et d'autre part, les informations, elles ont été triées, filtrées, on dit ce qu'on veut. Et bon, ça n'intéresse plus personne. Le fait est que les constatations qui ont été faites par voyageurs sont absolument fascinantes sur sur Uranus. Ça remet en cause beaucoup beaucoup de choses, notamment encore une fois l'âge de l'univers, le Big Bang, des choses comme ça. Seulement, à ce moment-là, plus personne ne s'y intéresse. Donc il y a un jeu extrêmement astucieux, extrêmement fin là-dedans.
Oui, et ce jeu-là, on le retrouve dans un article qui a été publié dans le Libre Journal, encore une fois. C'est pour ça que les gens qui nous écoutent devraient d'une part s'abonner au Libre Journal, parce qu'on va...
redonner les références de vos articles hein, avant de vous quitter.
On va récidiver dans le créationnisme, et le sécher aussi est très important. Par rapport à ce que vous dites, si on prend un article qui a été publié, lui, en février, le 22 février 2005, il concernait l'archéoraptor. L'archéoraptor, c'est quoi ? Ou qu'est-ce que ce n'est pas, dirais-je ? L'archéoraptor, c'est une bête qui est entre le dinosaure et un oiseau. Donc ils ont pris en termes d'oiseau un Yanornis, qui est une espèce éteinte, n'est-ce pas ? Et là-dessus, ils y ont greffé, par jeu de superposition de fossiles, une queue de dinosaure. Donc en fait, c'était un oiseau avec des dents, comme quoi ça existe. Quand on est évolutionniste, on peut croire à tout. Les poules ont des dents. Mais ce qui est intéressant, et là j'attire l'attention effectivement des auditeurs, c'est que pour l'archéoraptor, ce sont des paysans chinois qui étaient drivés, menés par des gens qui voulaient faire de l'argent. Ils se sont dit, on va superposer tout ça, ces fossiles-là. Et ensuite, c'était en 99, et ensuite, c'est le directeur, le rédacteur en chef de cette revue, dont j'ai oublié le nom, une revue anglaise, qui s'appelle le National Geographic. Qu'a fait le National Geographic ? Ils se sont vite empressés, effectivement, de prendre cette nouvelle. Ils en ont publié 10 pages en couleur. C'est même le rédacteur en chef qui en a fait le travail. Et ils en ont publié 10 pages avec photos, enfin bon, tout le Bataclan. Hein. Et quelques temps après, il y a quand même des gens qui se sont posé la question de savoir mais d'où sort ce croisement, parce que cette compilation de fossiles, parce que le National Geographic, en disant qu'on a trouvé un intermédiaire entre le dinosaure et l'oiseau, pouvait dire, voilà, on a trouvé un chaînon manquant. C'est le chaînon manquant qui manque en permanence pour démontrer la théorie darwinienne, c'est-à-dire l'homme descendant du singe. Donc là, ils ont trouvé un chaînon manquant. Comment ?
J'ai trouvé le chaînon manquant.
Il suffit de regarder quelque fois dans la rue. Bon, enfin bon, on sera pas méchant, ok ? Mais pour ce qui
c'est
est de l'archéo...
trop cher.
Oui, mais pour ce qui est de l'archéoraptor, donc il y a des gens qui se sont dépassés. Ils se sont dit, mais c'est n'importe quoi ce qu'on raconte. Voilà, on a attrapé des gens qui font des choses, qui se font du fric là-dessus. Ce sont des faux. Et là, à ce moment-là, avant que l'information ne transparaisse, la vraie information, il y a eu quand même le musée d'histoire naturelle de Bruxelles qui avait fait pendant plusieurs mois, qui avait fait une exposition en montrant comme ça en néerlandais, c'était dino, il y a auto une, le dinosaure est dans ton jardin ou des choses comme ça. Et enfin bon, et donc voilà, les gens étaient convaincus, on a trouvé le chaînon manquant, patati patata. Et lorsqu'on a effectivement découvert la vérité, les 10 pages du National Geographic, elles existaient, elles avaient impressionné les gens. Et en revanche, le National Geographic, en guise d'excuse ou de recul, avait publié 3 lignes ou 10 lignes, je crois, dans le courrier des lecteurs.
C'est un grand classique de l'évolutionnisme de faire des faux. Il y a le fameux homme de Pildon, oui, l'homme de Java, il y a le pithécanthrope. Ce sont des faux classiques qui seraient scandaleux s'ils venaient de créationnistes, mais qui sont passés bien sûr sous silence ou du moins pudiquement oubliés.
Quand même, l'homme de Pildon, ça fait quand même des gorges chaudes depuis très longtemps
dans le monde cultivé.
Parce qu'ils se sont fait prendre, mais combien d'autres sont passés au travers et sont enseignés dans les écoles aujourd'hui comme des réalités scientifiques prouvées,
sont des bases fausses.
Bien sûr.
Tout à l'heure, vous parliez juste avant, pour introduire l'émission, de créationnisme et de création. Et je crois que l'actualité me pousse à faire une toute petite incise et et à vous faire part de la...
Mais ça sera même une conclusion, parce que ça fait 35 minutes que nous sommes...
C'est incroyable, le temps passe.
Ah oui.
Alors, ce sera une conclusion, mais elle est assez intéressante. Vous connaissez bien Monsieur Guiberteau.
Très bien, oui,
Monsieur Guiberteau, qui est polytechnicien, qui est membre de la Société Géologique de France, qui est un scientifique de renommée internationale, qui est notre vice-président du Séché, et qui, en octobre 2002, a participé au Vatican à un symposium sur la création. Et il avait rencontré quelqu'un avec qui il a lié amitié, puisqu'il le connaît très bien, qui était le cardinal Joseph Ratzinger, et qui lui avait dit « La crise de la foi est due à l'abandon de la doctrine de la création ».
Ah oui, ça c'est très intéressant.
Alors donc effectivement c'est extrêmement intéressant, nous l'avions d'ailleurs publié avec les photos dans le Science et Foi numéro 66, on donnera les coordonnées après, et c'est extrêmement intéressant effectivement parce que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, non, oui, la crise de la foi est due à l'abandon de la doctrine de la création.
Eh bien, je suis très content que vous disiez ça parce que ça me permet pour conclure de répondre aux deux auditeurs qui ont téléphoné en disant feriez mieux de vous occuper de sujets comme la politique ou autre où vous êtes compétent, alors que là vous ridiculisez Radio Courtoisie. Ben ça, il faut dire à Benoît XVI qui ridiculise l'Église catholique quand il prétend que le créationnisme est le lié intrinsèquement à une pratique normale de la foi chrétienne.
Je voudrais répondre à cet auditeur en lui disant par exemple que s'il voyageait un peu plus, ou si peut-être il parlait d'autres langues que le français, par exemple s'il allait en Hollande, il pourrait se rendre compte que le créationnisme est conversation courante, il pourrait se rendre compte qu'aux États-Unis le créationnisme est conversation courante, il pourrait se rendre compte qu'en Allemagne le créationnisme est conversation courante. Donc la France n'est pas le monde et le monde ne tourne pas autour de la France.
Voilà.
Merci Laurent.
Moi, je vais vous demander 30 secondes pour donner les références, parce qu'il y a sûrement des auditeurs qui sont intéressés par tout ce qu'on vient de dire, les références des articles de Monsieur Blancy. Donc c'est Laurent Blancy qui a publié Créationnisme et géocentrisme, ces autres révisionnismes, dans le Libre Journal. Alors notez, hein, si vous voulez les commander, numéro 307. Il a publié ensuite 4 milliards d'années, l'âge de la Terre, 4 milliards et demi d'années, fantasmagorie évolutionniste, c'était dans le numéro 322. Il a publié Dieu a créé le ciel et la Terre, le dimanche 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ.
Il avait fait beaucoup rire le marquis qui prétendait qu'on
alors ça, qui demandait à quelle heure.
Et l'heure, il avait mis en plus l'heure, mais je n'ai pas osé parce que bon.
Ah bon, alors le marquis avait tort de rire en demandant l'heure et vous de lui promettre le bûcher et la question extraordinaire. Donc, la date de création de la Terre et l'heure, presque, dans le numéro 340 du Libre Journal. Et enfin, l'archéoraptor dont on vient de parler, c'est dans le numéro 343. Je rappelle que chacun de ces spécimens du Libre Journal peut être commandé pour un carnet de timbres ou 5 euros à SDB. 4 place France List, 75-010, Paris.
Et dans le numéro 349 qui paraît, là, le papier de Blanzy sur Uranus. Alors, maintenant, le Séché.
Alors,
Science et Foi, la revue Science et Foi qui est beaucoup plus complète que ce qu'on fait, nous, le Libre Journal, c'est un article de temps en temps, vous, c'est très régulièrement.
Qui est spécialisé dans l'inhérence, la défense de l'inhérence biblique, les thèmes, les mesures de l'Arche de Noé, a-t-on retrouvé le palais de Caïphe, un récit saisissant de Vladimir Soloviev, un article que nous a donné Mgr André Mutien Léonard, Mgr Léonard qui est évêque de Namur. Bon, on parle de très nombreux sujets qui ont pour but la défense de la foi catholique et la défense de l'inhérence biblique. Les coordonnées, je vais les donner rapidement. Donc, un numéro de téléphone, c'est le plus simple, 06 15 87 72 01, je répète, 06 15 87 72 01, et un email, séché@séché.com.
Séché,
C-E SHE@CHEZ.com. Je répète, séché, CHEZ.com.
Merci, monsieur Crémieux. Merci, monsieur Blanzy. Vous reviendrez nous voir, pour votre prochain papier, parce que je sens que vous avez envie de reparler. Vous.
Oui, et là, il y a un dossier qu'on est en train de faire ensemble, Serge, j'espère que vous ne l'avez pas oublié, c'est sur les géants, Bible et l'archéologie.
C'est bon, ça sera un grand moment.
Mais aussi l'Égypte, ça pourra vous intéresser.
Promis, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Merci, monsieur.
Monsieur Charousset, bonsoir. Alors, je vous ai demandé de revenir parce que l'autre jour, on a été un petit peu rapide quand même sur aventure et tradition. Et ce soir, vous êtes venu avec un jeune homme. Qui s'appelle Damien, c'est ça? Quentin. Pourquoi je veux absolument vous appeler Damien? C'est un nom d'assassin, Damien. Quentin. Donc, Quentin qui est membre éminent de l'association Aventure et Tradition. Alors, je vous demande de rappeler en quelques mots, Monsieur Charousset, ce qu'est Aventure et Tradition.
Voilà, très bien. Aventure et Tradition est une association de parents bénévoles qui organise dans les périodes de vacances scolaires des camps montagnards pour garçons et filles de 8 à 18 ans. Des cadres qualifiés, tous anciens d'Aventure et Tradition, les initient au plaisir d'escalader les montagnes environnantes par tous les moyens du montagnard complet, à savoir randonnée, bivouac en altitude, escalade, alpinisme. Si nous avons choisi la montagne pour nos enfants, c'est que nous avons constaté qu'elle était une formidable école de la vie, un lieu où les mots retrouvent tout leur sens, tels que entraide, discipline, maîtrise de soi, ténacité, rigueur, loyauté, goût de l'effort, sans oublier l'esprit de camaraderie, bien entendu. Des qualités qui seront bien nécessaires dans leur vie d'adulte, je pense.
Alors, je me tourne vers Quentin. Qu'est-ce qui vous a attiré dans Aventure et Tradition, Quentin ?
En fait, c'est le côté montagne que j'aime beaucoup. Au départ, ils faisaient des petits camps d'une semaine à Pâques ou en février. Non, je sais plus quand. À Toussaint, merci.
Toussaint.
Et c'était l'escalade, en fait. Parce que je m'intéressais beaucoup à l'escalade.
Et ensuite, vous avez un gabarit d'ailleurs de varapeur, parce que
je sais pas.
Des bons bras et pas très lourd.
Quel âge avez-vous, question subsidiaire?
19 ans. En fait, maintenant, je fais un peu cadre aventure et tradition. Et j'ai aussi participé en tant que.
Comme mousse, t'avais muté comme mousse, hein. Oui. C'est le béret vert, ensuite le béret rouge, voilà. Et maintenant le béret noir.
Oui. On dirige.
C'est pas trop militariste, non?
Non,
je me méfie.
C'est assez, quoi.
Je fais juste ce qu'il faut.
Mais l'avantage, alors, la mer et la montagne, c'est des milieux où on peut pas rigoler. On peut pas être trop démocrate, quand même, non, parce que ça dure jamais très longtemps.
Voilà. Oui, on a dit, c'est pas par hasard qu'on a parlé de rigueur, on est obligé.
Donc, vous avez débuté comme participant, comme mousse, on l'a dit, et puis vous avez gravi les échelons de la hiérarchie intérieure. Mais pourquoi vous êtes resté dans ce mouvement? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a fait rester dans le mouvement? Qu'est-ce qui vous a fait? Qu'est-ce qui a fait que vous avez aimé ce mouvement?
La montagne, tout simplement.
La montagne.
La montagne, c'est une bonne ambiance. Je pense pas qu'on puisse trouver un truc pareil. Enfin, c'est unique, quoi, l'association. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Quoi.
C'est unique par quoi?
Les chasseurs alpins, c'est tout différent alors. C'est quoi la différence? C'est quoi qu'est-ce qu'il y a de spécial à Aventure et Tradition?
D'abord, c'est pas des chasseurs alpins pour commencer.
Il nous répond la montagne. Alors moi, je lui réponds, les chasseurs alpins, ils sont en montagne aussi. Oui, et des dizaines d'associations différentes. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la vôtre?
C'est du camping en montagne. Il y a plusieurs activités assez sympas. On a des bons cuistots et tout.
L'éveillé?
L'éveillé, oui, tout à fait. Moi qui ai fait aussi du scoutisme.
Vous avez été scout aussi? Ouais. Enfin, vous êtes scout, parce qu'on n'a pas été, on est scout.
Le reste, c'est vrai. Ouais. Mais je suis scout.
Oui, c'est différent.
Quelle est la différence entre le scoutisme et l'aventure et tradition?
Aventure et tradition se tourne plus vers l'escalade et la haute montagne. Donc, tandis que les scouts, c'est beaucoup de marches à pied et sans grande montagne. Tandis que la haute montagne, quand on va avec les piolets, crampons et tout sur la neige.
Mais est-ce qu'on peut dire que ça serait une espèce de spécialisation du scoutisme? Parce qu'il y a des scouts marins.
On peut le tourner comme ça. Mmh. Ouais.
Mais je voudrais parler pour les parents inquiets maintenant. D'ailleurs, je suis père de famille, j'ai pas besoin de faire semblant. Avant de vous envoyer mon gamin, je voudrais savoir si vous avez le club alpin français vous a donné un diplôme, si vous avez un diplôme, une qualification.
Tout à fait.
Oui, bien sûr.
Mais il faudrait le dire aux parents inquiets. Je ne dois pas être le seul.
Tous les cadres sont diplômés.
Tout ce qu'il y a aussi en haute montagne et tout, on prend toujours
un
guide.
On fait appel à un guide de montagne, le cas échéant.
Vous n'êtes pas guide vous-même, Quentin?
Non.
On est obligé de recruter spécifiquement le guide de montagne pour le camp. Le recrutons.
Un guide, c'est pas une occupation à temps partiel, c'est vraiment un métier.
C'est un grand métier, oui.
Et le fait d'être... vous avez 20 ans, vous allez avoir 20 ans. Le fait d'être regroupé, je dirais, avec des enfants de 8 ans, c'est pas gênant, ça pose pas de problème. Non. Vous n'avez pas l'impression d'être entouré par une bande de ouistiti un peu excités?
En tant qu'animateur, faut aimer ça, quoi, c'est sûr. Ouais. Mais quand on a 8 ans et qu'on est avec des gars de 8 ans, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. On s'entend toujours bien. Puis c'est bien, c'est qu'il y a plusieurs classes d'âge, donc on se retrouve.
Oui, les activités sont séparées, hein, par
an. On peut, enfin, c'est assez.
Tiennent compte de la capacité des enfants. Les activités sont adaptées à la capacité de l'enfant.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous essayiez de faire, parce qu'on voit bien que vous êtes enthousiaste, vous aimez ce mouvement et tout, mais
on l'entend peut-être pas.
On l'entend pas. Enfin, si, nous, on le voit. On voit il a les yeux qui brillent quand il parle d'aventure et tradition et de la montagne, mais. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement? Parce que vous y êtes rentré, vous aviez quel âge?
Une dizaine d'années? 12 ans.
10-12 ans. Donc ouais. Ça fait quand même maintenant longtemps que vous y revenez.
Ça
vous
va,
avez
oui.
fait des camps, vous avez fait des sorties en montagne, vous avez vécu plein d'aventures. Qu'est-ce que ça vous. En quoi ça vous a changé par exemple? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez appris quelque chose qui pourra vous servir dans l'existence?
Bah oui, je peux dire ça, le goût de l'effort. Le fait d'arriver par exemple en haut d'une montagne et d'être content de ce qu'on a fait derrière, après on a tous les souvenirs qui vont derrière, il y a toujours quelque chose de très enrichissant, je pense.
Parce qu'il y a une question que posent toujours les béotiens, enfin les gens qui n'ont jamais fait de montagne, c'est pourquoi vous montez là-haut, puisque de toute façon vous serez obligé de redescendre.
J'aurais pas osé, Serge.
Non mais, moi j'ai entendu cette question 1000 fois, alors je la pose à mon tour quand même.
C'est une question,
vous savez ce qu'on répond dans ce cas-là? Pourquoi êtes-vous monté en haut de cette montagne?
On passe de toute façon notre vie à monter et à descendre.
Elle était là.
Ouais.
C'est ça. Là.
C'est
elle était
belle,
là.
Belle,
il fallait
belle,
y aller.
Donc.
Bah oui.
C'est Mais c'est vrai que c'est intéressant pour une fois quand on a un effort dont on choisit l'objet, on est vraiment son maître soi-même.
Voilà, c'est dire qu'on a réussi à monter là-haut sur un 3000 mètres par exemple, c'est génial. Puis après, une fois qu'on arrive là-haut, on a la vue et tout.
C'est grisant.
On regarde derrière soi, on se dit « Ah, j'ai monté tout ça, c'est bien. »
On en parle après dans les soirées. Hein.
Ouais, c'est sûr.
L'éveillé, ça se passe comment? Vous chantez, vous blaguez, vous racontez des histoires, faites des sketchs, vous faites comme on fait chez les scouts, ou alors vous refaites la course?
Non, c'est un peu comme on fait chez les scouts, mais on blague beaucoup, on s'amuse, quoi. Il n'y a aucun... Enfin, je me suis toujours bien éclaté, même dans les veillées.
Donc, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes gens de 12 ans, venez, rejoins tes camarades.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr, quand on y est, on se dit zut, on marche et tout, c'est embêtant, mais une fois qu'on ressort de là, on a toujours, de toute façon, les meilleurs moments qu'on a passés là-bas, avec les bons souvenirs.
Et j'imagine que vous ne payez pas ces séjours en cassant votre tirelire, mais est-ce que vous avez l'impression que... Parce que une des remarques qu'on fait à propos d'Aventure et Tradition, c'est que ça représente quand même un investissement un peu lourd pour
certains.
C'est
sûr,
ça c'est cher. Donc, c'est pas cher pour ce que c'est, mais c'est cher dans l'absolu.
C'est pas cher.
Avec une paire
parce
de chaussures de montagne.
Nous avons eu l'occasion de le confronter à d'autres stages, nous ne sommes pas chers. Hein.
Est-ce que ça vaut le coup au sens financier du terme?
Ah oui, tout à fait. Oui. Mais enfin, c'est sûr que la montagne et l'escalade et tout est quand même des activités assez chères et par rapport à, comme disait Monsieur Chausset, par rapport à d'autres trucs qui font ça. Je pense que c'est le moins cher, quoi. Il y a pas
d'autres formes de loisirs, vous voulez dire?
D'autres formes de loisirs.
C'est moins cher que le
même type
de
loisirs.
Comme Bryce de Nice?
Non, qui font le même type de loisirs en montagne.
Ah, en montagne
et tout.
Aussi.
Ouais, ça doit être le moins cher, ça, c'est sûr.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas? Dans Aventure et Tradition? Allez, parler puisque le patron est là. Là, vous êtes couvert, bénéficiez de l'immunité radiophonique.
Je suis inquiet.
Ne répondez pas, cher Roussel, parce qu'il va m'en vouloir à mort. Père, ça serait quelqu'un, ça serait pas quelque chose.
Oui. Non, franchement, non. À partir de. Comme j'ai fait les scouts et que j'aime bien les campings ou tous les trucs comme ça, non. Je dirais qu'il n'y a aucun truc que je regrette et que je n'ai pas aimé quand j'étais là-bas. Quoi.
Vous vous rendez compte qu'il est
sans restriction. C'est merveilleux.
Il a passé 8 ans chez vous, et quand on lui dit il y a quelque chose que vous n'aimez pas, il dit non, même, il ne parle même pas de la cuisine.
Et c'est pas sous la.
Ah non, la cuisine, elle est géniale. Par rapport aux scouts, c'est incomparable.
Oui, avec Jacqueline qui fait la cuisine.
Oui, mais parce que chez les scouts, c'est le cul de pâte qui fait la cuisine en général, c'est du riz à la colle.
Non, nous, c'est pas des boîtes, hein.
Oui, nous,
c'est la vraie cuisine.
C'est une vraie cuisinière.
C'est la vraie cuisinière, absolument.
Disons qu'après l'effort, on a le bon repas qui suit derrière, donc il y a vraiment. Pas de quoi se plaindre, quoi.
Et on n'a pas besoin d'être dorloté le soir pour aller dormir. Hein.
Voilà, c'est sûr.
Alors, vous serez du prochain
J'espère. Normalement, je vais essayer de faire animateur là-bas. Normalement, ça devrait peut-être.
C'est ça ou la boîte à bac, j'ai deviné
Non, je risque de faire deux voyages.
La boîte à bac, c'est fini, c'est réglé ça pour vous
Non, pas encore.
Pas encore Ah oui. Je ne sais plus, même les générations modernes, je ne sais plus comment ça marche. Alors.
Je vais donner quelques renseignements pratiques, je pense.
C'est ce que j'allais vous prier de faire.
C'est gentil. Alors, le camp a lieu du 1er au 15 juillet 2005, bien sûr. À quel endroit? À Loudanviel, dans les Hautes-Pyrénées. Oui. Ça se trouve à environ à 40 km d'Arreau et de Bagnères de Bigorre.
Bel endroit,
ça. Ça, c'est le camp de base, hein, bien entendu, étant entendu que les expéditions, éventuellement, il y a des bivouacs en montagne, n'est-ce pas, cher
ami? Oui, tout à fait.
Voilà. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 1er mai 2005. Seulement, j'en suis désolé, et il faut faire assez vite en raison de l'organisation du transport, parce qu'on doit organiser le transport SNCF.
Pour les auditeurs qui se recommandent de Radio Courtoisie, donnez-leur 2-3 jours de plus quand même, non?
Oui, bien sûr. On leur donnera quelques jours supplémentaires. Ouais. C'est pas. Mais enfin, on souhaiterait que les inscriptions se réalisent assez rapidement, si cela est dans toute la mesure du possible. Le téléphone. Alors là, je donne un téléphone unique.
Oui,
le 05 63 24, 26, 99. Vous aurez le bonheur.
Répétez-le.
Je répète. 05, 63, 24, 26, 99. Vous aurez le bonheur d'avoir le directeur du camp, soi-même, comme dirait quelqu'un.
En personne.
Monsieur Jacques Prissette, qui vous donnera, ainsi que la secrétaire d'Aventure et Tradition, qui est Jacqueline. Vous voyez, on est dans la série des Jacqueline, hein, qui vous donnera tous les renseignements, il vous orientera, il vous donnera des informations concernant la tenue vestimentaire, etc., les adhésions, le prix. Alors le prix, quand même, faut quand même rappeler le prix, qui nous paraît quand même très raisonnable. Pour enfants de moins de 12 ans, 450 € pour le séjour. Avec la possibilité, si vous nous envoyez un deuxième enfant, d'une ristourne de 10%. Et ne me dites pas qu'au dixième enfant,
non,
vous ne payez plus rien.
Non, ça ne marche pas. D'accord.
Ça ne marche pas.
J'ai essayé, mais c'est pas.
Alors, enfant de 12 ans...
C'est pour combien de jours?
Pour 15 jours, madame.
15 jours, donc, enfant de 12 ans?
Pour enfant de 12 ans, alors pour 15 jours, 450 €.
Vous vous rendez compte que pour 450 €, c'est-à-dire 3000 balles, vous pouvez vous débarrasser de votre gamin pendant 15 jours, c'est le rêve.
C'est merveilleux, je ne vous le fais pas dire. Alors, enfant de 12 ans et plus, vous avez une petite différence de prix qui est due au fait que les activités sont un peu plus pointues, donc ceux qui font de l'alpinisme, il y a un équipement, il y a des choses qui viennent s'ajouter, ça coûte 520 €. Alors, toujours la même chose, si vous avez un deuxième enfant, vous bénéficiez d'une ristourne de 10%. Une adhésion familiale de 34 €. Ça vous va, Victoria?
Plus le voyage.
L'assurance FFME, que l'on ne peut pas éviter, puisque nous sommes agréés jeunesse et sport. Et de ce fait, ça vous donne le droit d'utiliser vos bons CAF ou vos bons d'entreprise.
Les bons de la semaine.
De toute façon, voilà. Ils auront les renseignements au téléphone.
Oui, ils auront les renseignements au téléphone.
Alors, rappelez le numéro auquel ils peuvent téléphoner.
C'est un numéro unique. Il vaut mieux le rappeler une troisième fois. Le numéro à vos crayons, le 05 63 24 26 99.
Merci, monsieur Charousset.
C'est moi qui vous remercie infiniment.
Alors, à la coupure de 7h30, vous avez écouté la News DI de Samuel Barber, B-A-R-B-E-R. Demain, jeudi 21 avril, Les jeunes de l'IMB organisent une messe à la mémoire de Jean-Paul II et à l'intention de sa sainteté Benoît XVI en la chapelle de Notre-Dame de Consolation, mission catholique italienne, 23 rue Jean Goujon, dans le 8e, à 18h30. À 20h, il y aura une conférence de Frédéric Fagot, aujourd'hui peut-on encore enseigner l'histoire, au bar des théâtres, au 44 rue Jean Goujon. Entrée gratuite. Samedi prochain, 23 avril, de 15h à 18h30, Jean Silve de Ventavon dédicacera Cadoudal et Petite histoire des Juifs en France à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e.
Alors je recevrai Jean Silve la semaine prochaine, je le signale.
Et je rappelle l'adresse du centre Saint-Paul de la baie de Tannouarn, 12 rue Saint-Joseph, Paris 2e. Il y aura une messe le 1er mai, mais ça on en reparlera à 11h et à 18h.
Ouais. Merci à tous. Bonne semaine, la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 20 avril 2005 de 18. De 18 à 21h, ne parlons pas des élections, et en différé jeudi passé le lendemain, c'est-à-dire le 21, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant les chèques distincts pour la cotisation et pour les...